Un coin des pixels.
Salut Internet, bienvenue sur Un coin de pixel. Aujourd'hui, on accueille Rinaldo Wirth, qui est game director sur. Alors, on a essayé de trouver en français comme on disait, mais on ne sait pas. Donc, on va dire game director, initiateur du projet Spirit, dont on va parler. On va parler de ce qu'il a fait, de comment il est arrivé, parce qu'il travaille au Japon. Donc, on va un petit peu suivre tout son parcours. Mais avant d'oublier, je vais quand même dire qu'il y a aussi Vutraire qui est là.
Hein, bonjour,
bonjour Rinaldo.
Bonjour.
Alors, commençons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, Rinaldo, peut-être présente-toi un petit peu, d'où tu viens, dans notre beau pays, et puis.
Ok. J'ai vécu 16 ans en Gruyère, dans une ferme, jusqu'à que j'ai un peu la passion du multimédia où j'ai déménagé à Fribourg avec ma famille et j'ai commencé les MAF, une école de multimédia. Bon, à l'époque c'était les MAF, c'est devenu les Icon.
Okay.
Mais c'était dans le but toujours de créer, de raconter des histoires, de créer des choses, etc. Et en faisant le cursus, je me rendais compte que ça allait très dans le graphisme et ce genre de choses très corporate comme ça. Okay. Et donc assez peu de place en fait à mon univers personnel.
Dès le départ, avant que ouais. Ça tout de suite était le dessin, le visuel, ou t'avais d'autres domaines artistiques qui t'intéressaient?
Alors de manière générale, si tu veux, je fais de la musique depuis que j'ai 5 ans. J'ai fait de la capoeira, du kung-fu, donc au niveau du corps aussi, j'ai fait pas mal de trucs. Ensuite, quand j'étais à l'EMAF, j'ai toujours fait du dessin depuis que je suis petit aussi. À l'EMAF, du coup, j'ai appris à utiliser des programmes, donc on s'est éclaté à faire des films, des courts-métrages, des choses comme ça. Et du coup, la musique qui commence à venir dedans, composer des choses, etc. Mais à un moment donné, forcément, comme métier, il a fallu choisir quelque chose. Mm-hmm. Mais disons, j'ai toujours baigné dans ce genre de... Mon père est compositeur, ma mère, elle a fait de la gravure, enfin, c'est un peu...
Tu viens d'une famille déjà qui est profondément artistique. Ouais. Ok, d'accord.
Donc non, c'était pas seulement le dessin. Après, c'était personnellement, c'était plus facile pour moi apparemment de communiquer en dessin qu'avec la parole, quoi.
Ok.
Du coup, là, je sais pas si je vais dire des bêtises ou quoi, mais ça va. Je commence à m'habituer à parler aux gens.
Ça va, tu te débrouilles bien pour un début. Et donc ensuite, après les maths, tu m'as dit.
Oui.
Oui, après les maths, excuse-moi. On se fait des gestes et puis du coup les gens ne voient pas, donc arrêtons de nous faire trop de gestes. Mais...
Après les maths, j'ai fait un premier voyage au Japon en fait.
Mets ton micro un peu plus proche, comme ça les gens t'entendent mieux. Ouais. Voilà, nickel.
Alors j'ai fait un premier voyage au Japon.
Ouais.
Je suis tombé amoureux du pays. J'ai eu la chance de faire un stage de 3 mois dans une boîte de dessin animé.
Ok.
Qui a fait faillite 3 ans après, mais ça c'est une autre histoire.
Ok, c'était une boîte qui fait des choses qu'on reconnaît ou...
Peut-être. Bon, en fait, ils ont fait une série entre autres qui s'appelait Ayakashi. Mais il y en a eu deux de séries, il y en a eu une bien. Et une vraiment pourrie.
D'accord.
Et j'ai bossé sur la vraiment pourrie. Malheureusement. Ils avaient bossé un peu sur quelques séquences d'Évangélion, mais enfin, comme là-bas, ils faisaient beaucoup d'échanges. De manière générale, que ce soit en jeu vidéo, en dessin animé, ils échangent pas mal les talents, on va dire. Ouais.
Non, vas-y, continue.
Là, ça m'a donné un peu la motivation de me dire que c'était possible de bosser dans l'illustration, dans le dessin animé, dans ce genre de choses.
Et comment déjà t'es arrivé pour un stage? Comment tu peux te trouver
après? Bol.
Ok, bol.
Alors, c'est-à-dire que je partais pour 3 mois pour apprendre la langue.
Ouais.
Pendant ces 3 mois-là, je dessinais tout le temps. Pendant les cours, je dessinais tout le temps. Et il y a une. C'était quoi? C'était une des nanas à qui je prenais le cours, qui était dans une famille d'accueil, dont un ami travaillait dans une boîte de dessin animé. Et elle a dit, ah, mais si tu veux, tu viens une fois pour le rencontrer, etc. Elle m'a donné le contact. J'ai rencontré ce type, je lui ai montré un peu mes dessins. J'ai dit, moi, je serais intéressé par ce genre d'univers, etc. Une semaine après, il m'a fait visiter un studio. Et comme je fais tout le temps les trucs pas à l'arrache, mais un peu spontané comme ça, je suis arrivé avec mes affaires au studio quand j'ai été visité. Et j'ai dit, moi je sais faire ça, je pourrais rester éventuellement 3 mois de plus, qu'est-ce que vous en pensez, quoi.
Okay.
Et puis ils ont attendu un moment, puis une semaine après, ils ont dit, ok, viens pour 3 mois, quoi.
Génial. Okay. Et du coup, tu t'es occupé de quoi concrètement sur
De pas grand-chose en fait, parce qu'au début, ils m'ont beaucoup appris comment ça fonctionnait.
Okay.
Donc si tu veux, au début, je copiais justement des dessins qu'ils avaient fait d'Évangélion, des choses comme ça. Après, des séquences qu'ils avaient, je les reprenais pour essayer de les refaire moi-même. C'était vraiment un stage presque comme ici, parce que les stages au Japon, c'est encore autre chose. C'est vraiment, d'habitude, c'est pour entrer dans l'entreprise.
D'accord.
Mais là, okay. Cette fois, c'est vraiment un stage comme ici où finalement tu fais le stage, après tu rentres chez toi et puis.
Voilà, t'as juste appris des compétences.
Voilà.
Et puis, voilà.
Puis j'ai quand même, moi, j'ai fait des, un peu d'intervalle pour la Ayakashi justement vers le dernier mois.
Ok.
Et puis voilà.
Ok, d'accord. Et ensuite, t'es rentré.
Et je suis rentré, j'ai déprimé pendant une année.
Ah ouais, carrément, c'était dur alors au Japon.
Non, bah ouais, c'était justement. C'était,
ah, t'avais
c'était
plus
superbe.
Envie d'être, t'as envie d'y
non,
retourner
coup,
en
bah,
fait.
Voilà. C'est un peu ce qui, bah c'est toujours délicat quand on habite dans un pays qu'on aime, mais qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à créer sa maison là-bas, mais qu'en même temps, on n'est plus vraiment, enfin, on est à moitié, on est entre deux en fait, on se retrouve un peu entre deux.
Mais la langue, tu la connaissais, tu l'as appris où, tu l'as appris
je
en
l'ai
allant
appris là-bas.
Ouais. Ah ok, donc dès que t'as débarqué au Japon,
voilà.
Avant ce stade, tu ne savais pas du tout parler japonais.
Pas grand chose, je comprenais un peu, enfin, je comprenais comment ça fonctionnait grammaticalement, mais je savais pas du tout.
Ok, et puis c'est les cours là-bas qui t'ont
voilà.
Fait, ok, d'accord,
ouais.
Ça marche.
Et puis là, du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie un peu. J'ai profité du service civil pour faire des jobs, etc. Et c'est là que j'ai commencé le Ceruleum.
Mm-hmm.
Qui est une école bah, d'illustration dessin animé ici à Lausanne.
Ouais.
Et bah, en fait, c'est, vu que j'avais 25 ans déjà quand j'ai commencé le Ceruleum,
okay.
Donc c'est
ouais.
Général quand on commence ce genre de choses, c'est qu'on a choisi de le faire.
Okay.
Et là, vraiment, bah, je me suis dit, ah, bah, cool, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais aller bosser au Japon. À la base, je pensais dans le dessin animé,
mm-hmm.
Je me suis retrouvé dans le jeu vidéo.
Ok. Est-ce que déjà, Ceruleum, est-ce que t'as rencontré parce qu'on a aussi Sunnyside ici en
ouais,
Suisse romande.
Ouais.
Est-ce que t'étais avec des
ouais alors eux ils étaient dans la classe en dessus.
Ok.
Et on a on était tous les midis on causait, on a fait des voyages scolaires je crois ensemble, enfin scolaires, des voyages d'études, différents festivals ensemble et puis ouais on se connaît
super
bien.
Ah ok
bien.
C'est marrant comme quoi Ceruleum. Ok d'accord, il y a d'autres qui sortent, ça va être un canal de formation de nos illustrateurs suisses.
Je sais pas, ça serait bien.
C'est bien mais c'est vrai, enfin c'est marrant parce qu'on a aussi au Game Jam, moi j'ai Fabrice qui participe souvent aussi, qui vient de là, enfin c'est marrant, il y a
ouais.
Vraiment une espèce de pôle comme ça de gens qui ouais. Sortent de là, qui se connaissent un peu tous et qui.
Okay. Moi je pense qu'en plus en Suisse il doit pas y avoir beaucoup de pôles comme ça en fait. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'écoles comme ça qui.
Bah, il y en a une, il y a la célèbre Saxon qui forme sur le visuel qui s'appelle. C'est l'EPAC,
oui,
c'est ça.
Ouais,
voilà,
design,
c'est l'EPAC
ouais.
Voilà, qui fait ça, mais c'est vrai que sinon. Bah, puis surtout qu'en plus de ça, le Ceruleum n'est pas axé sur le jeu vidéo
non,
du
non,
tout, contrairement
non.
À l'EPAC qui a vraiment,
ouais.
Vraiment quelque chose qui est spécifique au jeu vidéo, une formation. Là.
Bon, je crois, après, c'est tout un débat, mais c'est sur les écoles. Est-ce que c'est les écoles qui font les élèves ou est-ce que c'est les élèves qui font de l'école ce qu'ils ont envie d'en faire,
oui.
En fait
oui.
Et
okay.
Moi, je serais plutôt partant pour le deuxième, dans le sens où c'est les élèves qui. Peut-être si j'avais pas fait le Ceruleum, mais une autre école,
ouais.
Ça aurait peut-être été la même chose. Je
ouais.
Sais pas. Hein,
oui, oui, bien
mais
sûr,
dans le
oui,
sens où. Par exemple, moi, chaque année, j'étais pas sûr de pouvoir faire l'année d'après,
mm-hmm.
Question financière.
Okay.
Et du coup, chaque année, je me disais, ce que je suis en train de faire là, il faut que je sois capable de le montrer professionnellement, même si c'était pas montrable forcément.
Ok, ouais, c'était ton but.
Cet état d'esprit que les gens vont avoir
ouais.
Dans une école change beaucoup, à mon avis. Ouais, quel genre de personnes vont sortir ou vont créer réellement des choses mm-hmm. En sortant de l'école, etc.
Ok.
Ouais.
Donc ensuite, on était à Ceruleum.
Voilà.
Et ensuite, comment est-ce que tu, enfin, tu t'es retrouvé à retourner au Japon?
Ouais. Alors pendant le Ceruleum, je suis retourné une fois, 3 semaines au Japon.
Oui.
Je me suis dit, c'était la première fois que je revenais en fait après les le coup d'il y a 8 ans en fait. Maintenant, du coup, ça va faire 8-9 ans.
Mm-hmm.
La première fois où je suis allé là-bas. Et ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait non seulement la possibilité d'y habiter,
mm-hmm.
Mais de travailler vraiment dans le domaine que je voulais, parce que même en Suisse, c'est quand même, on se bat quoi tous les jours pour réussir à bosser de ça, et c'est fatigant.
Ouais.
Au bout d'un moment, c'est vraiment fatigant, déprimant, tout ce que tu veux. Et comme je suis assez, mine de rien, assez solitaire, j'aime travailler en équipe, mais je suis quand même le genre de gars qui, un peu, je sais pas comment dire, mais un peu fermé dans mon univers.
Mm-hmm.
Il fallait que je puisse apprendre d'abord d'une entreprise pour pouvoir m'ouvrir. Et du coup, je me suis dit, bon, une paire de coups, cool, je vais au Japon. Et fin 2012, je me dis, début 2014, je suis au Japon, je travaille là-bas. Mais je ne savais pas comment encore.
Sur un coup de tête?
Sur un coup de tête. Et
okay.
J'ai dit, 2013, je le sacrifie en quelque sorte pour travailler, aller au Japon, jusqu'à que je trouve, ça veut dire faire des petits jobs, jusqu'à que je trouve un boulot là-bas.
Ok.
Et en fait, je suis allé 2 fois.
Moi, je serais déjà curieux de savoir aussi au niveau de ta famille, comment étaient perçus ces choix qui sont quand même hyper Ouais. Voilà, hyper tranché, hyper dire bon, je me casse, maintenant je vais au Japon, ouais, je vais faire. Enfin, quelle était. Est-ce que t'as eu des résistances ou est-ce que l'autre côté
je pense qu'il le sentait. Hein. Je pense qu'il le sentait parce que du coup, la première fois où je suis parti, quand je suis revenu, quand ils ont vu mon état et tout ça, je pense qu'ils ont dû le sentir au fur et à mesure qu'à un moment ou à un autre j'allais y retourner. Okay. Après, il faut savoir que dans ma famille, moi c'est un peu, mais je pense comme pas mal de personnes dans notre génération. Moi, j'ai vécu avec mon père jusqu'à une année. Après, j'étais qu'avec ma mère et mon okay. grand frère. Après, il y a eu plein de choses qui font que en tant qu'enfant, tu te dis, il faut que je me démerde tout seul à un moment ou à un autre, tu vois.
Okay.
Et du coup, vu que c'est plutôt ma mère qui s'occupait de moi, elle était là, mais écoute, bah oui, forcément, on sera triste, mais vas-y, quoi, profite. Elle m'a plutôt poussé dans okay. le sens où je voulais. Si tu veux. Du coup, à ce niveau-là, oui, forcément, bah, c'est plutôt, par exemple, du côté de mon petit frère, comme ça. Il n'y a pas eu de résistance réelle, mais tu sens, bah, forcément, tu vois, de la tristesse ou comme ça. Mais en fait, maintenant, ça s'est super stabilisé parce que. Ils sentent aussi que finalement c'est pas si loin. Ça veut dire, c'est 9600 km, mais
c'est
jamais vraiment loin.
C'est
en fait.
Vrai qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on peut garder un contact.
C'est pas comme si tu partais en bateau de l'autre côté de la planète et puis clair. Que pendant 3 ans, t'avais pas de nouvelles.
Voilà, c'est différent. Ouais, on est d'accord. À ce moment-là, quand tu repars, t'es dans l'idée. Que tu veux quelque chose de précis, tu veux travailler dans l'animation, tu veux travailler dans le jeu vidéo, tu veux travailler. Ou est-ce que tu te dis, bah, tant que je peux faire du dessin, ouais. moi, je m'en fous, je trouve quelque chose.
Ouais, c'était pour moi aussi que je me disais, je vais laisser large, mais c'était vraiment large, ça veut dire, pour ici, c'est pas vraiment large en fait, mais c'est genre dans le dessin ou l'animation.
Okay.
Mais bah, là-bas, dans l'animation, typiquement, bah, ici aussi, je pense, mais il y a de l'animation pour le dessin animé, pour des jeux, pour des films, ouais. Du dessin et de l'illustration pour plein de choses. Okay. Et du coup, je suis parti, mais plutôt animation au début.
Okay.
Et en fait, c'est en rencontrant des gens. J'ai rencontré pas mal de gens. On va peut-être pas faire toute l'histoire parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes, etc. Et que peu à peu, le chemin m'a amené vers le jeu vidéo parce que de mon côté, il y avait aussi un intérêt plus large de ce que moi, je voudrais en fait passer dans mes histoires. Parce que j'ai toujours, comme j'ai dit au début, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Et la manière dont je la raconte, bah moi je sais dessiner, je sais faire de l'animation, donc je vais le faire là-dedans. Mais si c'était de la musique, par exemple là j'ai commencé à danser cette année et puis on a fait des assez gros shows avec la team, etc. Il y a aussi des histoires à raconter, je me suis dit pourquoi pas faire une chorégraphie une fois, tu vois, dans le sens où c'est ça qui est le point principal pour moi.
Le vecteur pousse en avant, c'est n'importe quoi tant que je peux raconter des histoires.
En quelque sorte. Et après j'ai quand même une réflexion de comment raconter une histoire qui non seulement touche réellement, mais touche le maximum de personnes. Je suis aussi un fan de jeux vidéo, donc forcément, je me suis dit, le jeu vidéo, il y a l'histoire que tu peux avoir dans un film, il y a le côté dessin que tu peux avoir dans une BD si tu as envie, mais il y a surtout le côté du choix, enfin de l'implication du joueur qui est quand même, pour moi, un peu différent d'un livre. Ça se rapprocherait, par exemple, d'un livre dont tu es le héros, sauf que c'est encore quelque chose de différent et parce que tu peux le rendre réel différemment, disons. Okay. Enfin bon, moi c'était ce genre de choses auxquelles je
voulais explorer quelque chose, il y avait quelque chose pour toi, quelque chose de nouveau, mais c'est positif dans ce que tu dis. Enfin, c'était quelque chose, quelque chose de plus que tu pensais pouvoir explorer.
Complètement.
Okay, d'accord.
Et puis que je pouvais aussi apporter ma touche là-dedans parce que effectivement il y avait plein de jeux vidéo qui sortaient qui m'intéressaient plus et j'étais là mais si on faisait ça, ça serait super. Et si on faisait ça, ça serait super. Et du coup, j'ai commencé par me dire, je vais commencer par apprendre. On verra après ce qui se passe, quoi.
Ok, si t'arrives à.
Voilà. Et du coup, j'ai réussi à rentrer en fait dans une boîte en 2014, début 2014, plus ou moins comme j'avais prévu, à Tokyo, qui s'appelle Inis. Et puis j'ai commencé en tant qu'animateur 3D.
Et tout ça par. Alors tu dis, tu veux pas rentrer dans le détail, je comprends effectivement. Mais je trouve toujours intéressant parce que des fois, quand on est ici, on se dit. Je vois moi le premier, ou même je pense plein d'autres sur la scène romande de jeux vidéo. On se dit, le Japon, c'est un peu l'endroit intouchable.
Ouais.
Donc juste comprendre comment est-ce que tu. Enfin, t'arrives avec rien.
Ouais.
Et puis tout d'un coup, combien de mois ça te met avant de trouver une place chez Nice ?
2 fois 3 semaines.
Deux fois, ouais, donc ça paraît, enfin, jamais je miserais 5 centimes sur le fait que je me pointe au Japon. Bon, toi, je pense qu'il y a la langue qui a fait, parce que tu parlais déjà la langue.
Ouais.
Mais après, te dire, en 2 fois 3 semaines, boum, je suis projeté dans une boîte au Japon, sur des gens qui font des projets quand même que depuis ici je regarde.
Alors, je crois que la première chose à faire, ce que personnellement je me dis, et je me dis toujours, c'est qu'il n'y a que des gens, où qu'on soit. Mmh. On est que des gens et puis on est des humains et en tant qu'humain on est finalement, même si la culture est différente parce qu'au Japon c'est quand même, il y a plein de trucs différents, finalement il y a des gens, il y a des personnes et puis tu rencontres des personnes et ces personnes surtout quand toi t'es paumé, encore plus en fait quand t'es pas japonais tu te retrouves un peu paumé, si tu rencontres des gens vraiment avec qui tu matches et qui deviennent des amis ou comme ça, ou même des potes dans un bar, j'en sais rien, et tu lui dis ah ben bah tu dis tu t'ouvres et tu dis bah voilà moi j'ai envie de faire ça, vous connaissez pas quelqu'un, puis ah mais j'ai un pote là, bah la prochaine fois je te le présente. Mmh. Et de ce gars qui te le présente tout à coup bah ça, voilà, j'ai rencontré pas mal de personnes et dans ces quelques personnes bah j'avais un ami quand même que j'avais rencontré en Suisse et ça m'a fait le premier pas, c'était vraiment cet ami là qui m'a aidé sur pas mal de points en me disant ah ben je peux aller voir telle personne, ou il avait quelques contacts mais pas dans le jeu de vidéo du tout ni dans l'animation, mais d'aller demander en fait. Ouais. Et ça s'est fait vraiment que comme ça, parce que par exemple je savais pas trop comment j'allais me présenter là-bas, je fais pas de manga, je fais mon illustration, comment je vais faire, tu vois, est-ce que je dis ah oui bah j'essaye, oui je pourrais faire du manga éventuellement, puis je me prostitue un peu parce que ou pas, etc. Et en fait la première personne que j'ai rencontrée c'était un réalisateur de dessins animés publicitaires genre assez vieux. Okay. Qui adorait picoler et avec qui on a été 2-3 fois picolé, on était complètement ivre. Et en fait, mais oui, ça s'est fait comme ça. Et le gars, il m'a dit une fois, monstre sérieusement, je sais pas, il me prenait un peu comme son fils, tu sais, il était un peu là, ouais. Tu sais, là, tu vois, le genre un peu. Et il me fait, tu sais, il y a un truc vachement important, c'est que toi, t'as quelque chose que les Japonais ont pas, c'est ton style. Puis tout d'un coup, j'étais là. Puis il a dit, ouais, si tu vas dans les boîtes, vas-y, tu présentes ton style, tu dis, voilà, moi, je fais ça. Et il y aura des gens qui vont être ouverts à ça, quoi. Puis sur le moment, jusqu'à maintenant, je me disais, mais je vais faire en sorte d'essayer de le faire à la japonaise. Puis juste ce truc-là, bah ouais, voilà, on était bourrés, mais le matin, je m'en suis rappelé quand même.
Tu t'es dit juste l'information essentielle non, ça qui va. Est réapparue d'un nuage de flou.
Qui vient de la figure du vieux sage.
Oui, c'est... Non, mais effectivement. Il y a...
Truc spirituel, du coup, l'illumination. Ok, maintenant, je sais où je dois aller, je sais comment.
Bah, le vieux sage qui picole, il était ouais. Pas si sage que ça, mais...
Oh bah tu sais dans Dragon Ball, dans Naruto, voilà. le grand maître il picole toujours hein, donc faut croire que, que voilà. Donc oui c'était un sage. Non mais c'est vrai, c'est rigolo.
Non mais ouais, c'était peut-être un peu ça du coup. Ouais. Et puis de bah après c'était plutôt que de rencontrer des gens qui m'ont directement amené vers autre chose, c'était des gens qui m'ont amené à moi m'avoir confiance en moi quoi.
Ouais.
À avoir confiance en chaque fois, au bout d'un moment, tu commences à te présenter. Et les premières fois, t'es un peu là, comme ça, tu sais pas trop comment rentrer. Après, tu vas, puis tu fais voilà, je fais ça parce que t'en as vu 2-3, disons pas autant que ça, mais tu dis, mais j'ai rien à perdre, quoi.
Ouais.
Je suis là, maintenant, je suis au Japon déjà, ouais. J'ai que 3 semaines, je vais pas.
Je vais pas
lésiner, je vais, ok, je monte, mais je me la pète pas, mais tu, mm-hmm. tu montes tes trucs, et puis tu offres. Moi, j'avais pris des artbooks personnels, je les offrais à chaque fois, tu vois, avec mes contacts dedans, ouais. J'avais quand même préparé un peu mon coup, quoi. Et niveau illustration, typiquement, ça n'a pas marché en fait, parce que j'ai quasiment pas fait d'illustration jusqu'à maintenant, sauf pour, après on en parlera, mais pour le jeu qu'on est en train de créer. Mais
du coup, en fait, ça a marché pour l'aspect animation, c'est ça ?
Ouais, mais en fait, ça a marché pour l'aspect. Je suis une personne qui est suisse, qui est complètement suisse, qui a mon univers, mm-hmm. et je viens pour présenter cet univers-là. Donc, c'était même pas ce que je faisais, limite, qui était le plus important, c'était comment j'arrivais là-bas. Et comment j'avais les contacts avec les gens et qui j'étais en fait.
Okay.
Et en comprenant ça, du coup, ben, c'est là que je reviens au truc. On est que des gens. C'est quand tu t'entends bien avec quelqu'un, et ben tu vas essayer d'être sympa avec, il va essayer d'être sympa avec toi, et tu vas ouais. avoir beaucoup plus de chances d'avoir des portes ouvertes sur d'autres choses. Quoi.
Mais c'est assez juste parce que de l'autre côté, quand on y pense, c'est rigolo parce qu'il y a cette espèce de beaucoup souvent râle. On dit ah ouais, mais lui il est copain avec lui, donc forcément c'est normal. Mais c'est vrai que de l'autre côté, comme tu dis, on est que des gens et que c'est assez naturel que quand ouais. quelqu'un te plaît, quand t'as une personnalité qui te parle, eh ben t'as envie de faire des trucs pour lui, t'as envie de travailler avec lui,
voilà,
t'as envie
exactement.
De. Ouais.
Okay. Et puis aussi, faut voir maintenant, actuellement, par exemple en dessin, moi je suis de loin pas une brute épaisse en dessin ou quoi que ce soit. Il y a des gens beaucoup plus doués que moi qui peut-être ont pas eu la chance pas d'aller au Japon, j'en sais rien. Mais je crois qu'il y a tellement de talent, si on mm-hmm. peut dire. Que finalement, qu'est-ce qui reste de toi ? C'est toi, c'est pas ton talent. Enfin, ton talent mm-hmm. sort de toi, si tu veux. Mais par exemple, il y a des gens qui ont une technique incroyable, mais il manque de la vie, par exemple, je sais pas, dans leur dessin ou comme ça. Il manque quelque chose qui est bah, qui est la personne elle-même. Et je crois que c'est, bah, moi j'ai tout joué là-dessus. Enfin, j'ai tout joué dans le sens où c'est même plus du jeu. J'ai tout fait comme ça, quoi. Mm-hmm. Je me suis dit, bon, bah, je lâche et puis je suis moi-même et puis on verra, quoi.
On verra
qui va s'adapter. En fait, finalement, là où. Bon, c'est Tokyo aussi, donc il y a pas mal d'opportunités, il y a pas mal de boîtes. Et plutôt que la première, la seule qu'il y a, je vais tout tenter pour rentrer dedans, je me dis, bon, si c'est pas celle-là, ce sera la prochaine. C'est okay. aussi cette chose-là qu'on n'a pas forcément ici,
ouais.
C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités de, et
c'est
beaucoup
tellement
de
limité
différentes.
Ici que si on te ferme la porte,
voilà,
il ne reste plus grand-chose.
Voilà, exactement.
Tandis
donc
que...
là, il n'y avait pas ça. Et je m'en suis rendu compte en allant là-bas la première fois. C'est pour ça que je suis retourné une deuxième fois, trois semaines, une deuxième fois. Et c'est là que j'ai trouvé...
Et au niveau de justement, de la façon, enfin, la façon dont on... Bah, au Japon, je pense qu'on communique pas la même chose, enfin les codes sont pas les mêmes. Est-ce que ça, tu t'es senti très handicapé au départ, ou est-ce que relativement rapidement, tu t'es senti à l'aise, t'as retrouvé des marques?
Bon, ouais, là c'est, alors là c'est personnel de nouveau. Moi j'ai eu un, comme je t'ai dit, la première fois où je suis allé, j'ai eu un choc, mais c'était un choc vraiment positif dans le sens où tout d'un coup je me suis rendu compte que la personne que j'étais, plein de choses qui pour moi paraissaient bizarres ici, dans le sens où j'étais là, mais cette partie de moi là je l'aime pas trop parce qu'ici en Suisse ça marche pas et tout ça. Tout d'un coup, tout ça, je pouvais être à 100% moi-même parce qu'il y avait des choses, si tu veux, des manières de faire. Je comprenais, par exemple, moi je suis assez à aimer être dans mon petit univers, à pas qu'on me choque trop. Tu vois, je sais pas, je serais assez du genre à sursauter si on arrive derrière et puis on me tape sur l'épaule et puis on me fait, hey, machin, tu vois, je suis là. Ouais.
Okay.
Et c'est des trucs ici, c'est là, mais vas-y, relaxe-toi un peu.
Ouais.
Et en fait, tout d'un coup, là-bas, j'avais mon espace, donc je pouvais me relaxer. Et plein de petites choses comme ça qui, en fait, ont fait que le lien avec le Japon était très fort et très rapide.
Okay.
La langue, j'ai commencé à la parler, ben, en 6 mois, j'avais toutes les bases pour parler, tu vois. Et moi, j'ai jamais repris de cours depuis, et je parle, enfin, pas parfaitement, mais je parle vraiment la langue dans tous les domaines où je fais, et ça me pose pas de problème maintenant.
Okay.
Donc, j'avais pas ce sentiment d'avoir, comment on peut appeler ça, des handicaps à ce niveau-là.
Ouais, des handicaps sociaux qui
pourraient
payer
des
malentendus, et que ça te poserait
en fait,
problème.
Les handicaps que je pouvais avoir, j'ai essayé d'en faire des truc positif.
Okay.
Par exemple, le fait de ne pas être japonais, ça peut être un handicap si tu le vois comme ça.
Mm-hmm.
Parce qu'au début, tu es là, ah, non, mais il faut que je rentre dans cette société. Puis après, tout d'un coup, tu commences à comprendre la culture. Puis tu dis, non, mais parce que je ne suis pas japonais, je peux me permettre de parler avec un boss comme si je parlais là, comme on parle maintenant.
Okay.
Parce que, mais en étant bien sûr dans les règles, ça veut dire en essayant d'être poli, en essayant d'être tout ça. Mais il y a une certaine. Parce que lui aussi, il n'est pas en face des Japonais, donc il n'a peut-être pas besoin de rentrer dans ce truc-là,
ouais,
tu vois.
Intéressant. Okay.
Donc il se relaxe, et là, on peut parler en humain à un humain, et ça, c'est vraiment... Du coup, c'était pour moi un truc positif. Si j'étais japonais, j'aurais probablement pas pu faire tout ce que j'ai fait.
Ok.
Par exemple.
Ouais, ce statut d'étranger te permet...
Bah, tu peux le voir négativement ou positivement, c'est comme tout, en fait.
Oui, c'est
à toi de voir comment t'arrives à le...
Ok, d'accord. Ouais, très bien. Et donc, après, Inis, tu trouves une place dans cette boîte qui s'appelle Inis.
Voilà.
Déjà, peut-être cadre-nous, qu'est-ce qu'ils font, quel est le...
Alors, c'est une boîte d'environ 8 ans de personnes qui... Donc, ils ont tous les... C'est une boîte complète dans le sens où ils ont aussi un studio de musique, ils ont des animateurs, des modeleurs, des gens qui viennent faire le debug, etc.
Okay, donc ils travaillent pour le jeu vidéo. Donc,
ils travaillent que pour le jeu vidéo. Et ils ont leur propre jeu interne. Ils ont fait par exemple Demon's Core. Sur,
ça me dit quelque chose.
Ils ont fait...
Demon's Core, je sais pas, le nom me dit quelque chose, mais j'arrive pas à remettre... C'était un jeu de quoi
C'était un jeu, je crois que ça a été sur appli, ça a été aussi sur... sincèrement, je suis assez mauvais pour ce genre de trucs. D'habitude, je me souviens des jeux sur lesquels j'ai travaillé, en fait, principalement.
Ce qui fait du sens.
Je peux pas dire tous, malheureusement.
Ok, bien sûr. Mais bon, bref, ils ont des productions internes.
Ils ont des productions internes et ils travaillent pour d'autres boîtes.
Ils font de la sous-traitance pour d'autres boîtes.
Okay. Je peux dire les noms des boîtes, dont Square Enix et Nintendo, qui sont des boîtes pour lesquelles j'ai travaillé, en fait.
Okay,
en fait,
d'accord.
J'ai pas vraiment travaillé pour Inis.
Ça va. Nintendo, Square Enix, c'est pas...
Non, c'était bien.
Il y a pire. Square Enix, je vois pas bien, mais Nintendo, je crois que je connaissais le gars avec la moustache, là, non ?
Ouais. Ils ont commencé dernièrement à faire quelques jeux indie.
Quelques petits jeux indie. Il y a des chiffres derrière, des Final Fantasy avec des chiffres, quoi. Ok, cool. Ah ouais, on parle fort, hein. Mais bon, c'est pas grave.
Okay.
On verra, peut-être qu'on aura assourdi les gens. Donc tu as bossé sur... Bah déjà, quel était ton rôle, toi, au sein de
cette boîte ? Alors, j'étais animateur de manière générale, animateur, mais en général, c'était de la 3D.
Ok.
Il y a eu rarement, personnellement, j'ai rarement fait des trucs en 2D. Je l'ai fait une fois en 2D, mais c'était avec un programme 3D. Enfin, bon, c'est...
Ok.
Et je me concentrais que là-dessus, en fait. C'est ça aussi la, l'avantage d'être une boîte où il y a 8 ans de personnes. C'est que, on se concentre que sur les choses qu'on fait vraiment.
Ok.
L'animation, je faisais que de l'animation. Ça m'est arrivé une ou deux fois de faire un rig ou de faire un skin sur une.
Rig,
sur
un... c'est quoi ?
Un rig, c'est mettre les. Comment on peut dire ? Les manipulateurs pour pouvoir animer. Si tu veux, dans un modèle 3D, t'as le modèle 3D, t'as les squelettes à l'intérieur. Et à l'extérieur du modèle, t'as des manipulateurs pour pouvoir faire bouger le squelette et donc tout le personnage. Et ça permet de ne pas aller directement à la racine. Tu utilises ça. Donc souvent, c'est arrivé d'avoir un modèle avec seulement le squelette et qui n'est plus le rig, et tu te tapes une ou deux journées pour faire le rig et ensuite pouvoir animer.
Ok.
C'est des trucs que les animateurs sont doivent savoir faire, mais en tout cas, de manière générale, on ne faisait que de l'animation ou du cleaning d'animation, des choses comme ça.
Et donc, du coup, ça consiste à faire, on te dit, comment concrètement ça se passe au niveau du travail? On te dit, on donne tel personnage et tu dois nous faire, une animation de ci, de ça, d'attaque.
Bah,
de...
Par exemple, j'ai travaillé sur Lord of Vermilion 3, qui est un jeu de arcade avec des cartes, c'est difficile à dire, mais avec des cartes où on invoque des créatures, etc. Et en fait, on devait faire une animation par jour. On recevait un pack de personnages avec une liste de toutes les animations qu'ils devaient avoir. Et donc, par exemple, il y avait la marche, la course, telle attaque, attaque forte, défense, quand il meurt, quand il lance une sorte de beam pour choper, parce qu'il devait choper des points. Tu sais, c'est comment, capture de flag, mais genre...
Ouais, il y a des espaces, espaces à capturer.
Okay. Et puis, tu as deux teams qui capturent.
Okay.
Du coup, tu avais des animations pour ça, etc. Et c'était...
King of the Hill, c'est ça. Non, je crois que c'est ça qu'on appelle ça. Bon, bref, peu importe.
Oui. C'est ça. Et du coup, on recevait ça. Et du coup, chaque matin... Ou le soir d'avant, en général, moi, je regardais, puis je disais, demain, je fais telle animation. Ou on avait une liste où, par exemple, moi, je prenais je faisais pas mal ça, toutes les beam motion, justement, quand ils lancent une sorte de kamehameha sur ce machin. En loop, donc en boucle. Et donc, chaque matin, je prenais un nouveau personnage, puis je regardais, OK, tel personnage, il a tel genre de marche, donc il a tel genre de... Je sais pas, par exemple, il est lourd, ou bien il utilise ça comme arme. Ah ouais, ce machin-là, c'est censé être un truc sur lequel il vole, j'en sais rien, tu vois.
Ouais.
Je regardais un peu les animations qu'il y avait, puis j'inventais une animation de BIM qui allait avec ça.
Tu avais complètement toute latitude, en fait, pour donner à l'animation.
Alors il n'y avait pas grand-chose d'écrit,
okay.
Mais tu te démerdais pour voir ce qui avait déjà été fait. Si rien n'avait été fait, t'inventais.
Ok.
C'était encore assez cool, quoi.
T'as beaucoup de... Enfin, après, c'était genre... Est-ce que c'était... une fois que t'as fini ton anime, tu dois la montrer. Est-ce que t'as beaucoup de trucs où tu dois recommencer ou c'est...
Ah ouais, bien sûr, ça arrive. Mais là, ça se passe comme ça. En général, t'as... Par exemple, dans le groupe animation, il y avait... On était 6. Et à bosser sur Lord of Vermilion, on était que 2, en fait. Et du coup, mon senpai, c'est-à-dire le gars qui s'occupait justement de voir tout ça...
Okay.
C'était un moitié anglais, moitié japonais. Super sympa, une monstre brute en animation, un truc de fou. Et du coup, j'allais chaque fois chez lui et je lui disais, j'ai terminé telle animation, est-ce que tu peux regarder? Puis il me disait, ah ouais, là, juste ça, là, il manque un petit peu ça. Puis je repartais, tu vois.
Okay.
Après, au bout d'un moment, on avait un rythme, tu vois, vu que c'était chaque jour. Je savais qu'à 5 heures, en fait, il fallait que je finisse vers 5 heures mon animation. J'allais lui montrer pour voir s'il y avait des corrections, parce qu'à 7 heures, je voulais terminer. Bon. Des fois, ça arrivait que tu fasses jusqu'à 8-9 heures, mais là, pour Lord of Vermilion, typiquement, on avait trouvé un rythme qui allait parfaitement. Et
ça dure combien de temps, à peu près, ce travail sur un jeu? Par exemple, sur Lord of Vermilion, vous avez bossé combien de temps? Ça représente beaucoup de personnages
Ouais, énormément. Ouais. Nous, on a fait 6 mois.
Ok.
Donc, à une animation par jour ou deux animations
Waouh.
Il faut imaginer, c'est un jeu de cartes. Ils ajoutent des cartes, ils ajoutent des créatures, ils ajoutent des modèles 3D. Donc, c'est un de ces jeux.
C'est un jeu de cartes matérialisé, c'est
matérialisé,
ça.
Ouais.
Que du coup, après, on pose sur la borne. Voilà, il y a une surface, parce qu'il me semble, quand j'étais au Japon, je l'ai vu.
C'est ça.
Et puis, ça fait apparaître les personnages sur l'écran, en fait.
Voilà. Okay. Du coup, il y a eu Lord of Vermilion 1, 2, 3, mais dans les 1, 2, 3, il y a chaque fois. 3 ou 4 ou 5, j'en sais rien combien, différentes sortes de, si tu veux, d'update ou d'add-on.
Ouais,
mise à jour
ouais,
avec des nouveaux packs de cartes, avec des nouvelles choses. Et du coup, des nouvelles packs de personnages. Il y avait des personnages qui ont plusieurs skins. Donc tu refais les animations selon skin, parce que si dans un skin il y a un animal à côté, ben tu
réanimes tout,
etc. Ah
bah ouais,
tu
peux pas juste changer le...
Alors il y avait certaines créatures où tout d'un coup t'étais là, mais si jamais il y a telle animation qui a déjà été faite, modifier juste celle-là, mais c'était super rare, franchement, c'était d'habitude, tu faisais depuis zéro, quoi.
Ok, du coup, t'avais
après,
toujours, c'était tes personnages qui revenaient à, on redonnait au même
animateur.
Si d'un coup t'avais bossé sur un, puis il y a une nouvelle skin, c'était pas forcément toi qui faisais la nouvelle skin.
Ça, c'était à nous de choisir entre nous, quoi. Mais,
D'accord.
De manière générale, c'était tous les, si tu veux, on s'en foutait dans le sens où au bout d'un moment, c'était, le prochain personnage, puis il y avait juste une liste, on savait même pas les noms du personnage. Tu vois, puis tu vas du premier au dernier, et puis le deuxième, c'est un, je sais pas, c'est un truc à pas de pattes, 5 tentacules, machin, t'es là, oh, celui-là, il va me prendre vachement de temps.
Okay.
Et puis l'autre, après, tout d'un coup, tu tombes sur un truc humain avec quasiment aucun suivi, parce que là où ça prenait énormément de temps, c'est tous les suivis d'habits, de capes et tout ça, parce qu'on les animait à la main, il n'y a pas de dynamique.
Ok.
Donc, s'il y avait. Souvent, c'était ça le gag, c'est genre, le mien, il a aucune cape, il a rien de suivi, trop bien, et puis tu savais que t'allais finir ça super vite.
Ok.
Puis, du coup, il y en avait un qui se retrouvait avec un truc, avec des capes, sans une créature à côté. Donc,
une écharpe, et puis.
Ouais. Puis, il y a deux créatures à animer pour le prix d'une. Puis, le gars, il était, non, putain.
Non.
Donc, c'était un peu le gag après.
Et il bête quoi qu'il en soit, qu'il allait faire un jour.
Bon, après, on se gérait entre nous, donc c'était le truc, mais si justement, il y en a un que tu finissais en un demi-jour, tu te laissais plus de temps pour le prochain, puis ça arrivait à celui-là. Tu disais, celui-là il va me prendre beaucoup de temps, je regarde après si j'arrive à rattraper sur autre chose et puis me faire deux jours sur deux personnages.
Okay.
Mais il y en a un que tu finis en un demi-jour, etc. Ouais, c'était un peu le...
Et il y avait des personnages assez
connus
ou bien il y avait.
Connus ? Ouais, je crois qu'ils invitaient, ils invitaient en quelque sorte des personnages d'autres jeux, pas mal.
Ok.
Donc, il y a eu, par exemple, moi, j'ai eu la chance d'animer Emile de Nier.
De Nier, ok.
Ouais.
Oh là là. Pour moi, c'est beaucoup.
Tu sais que je connaissais pas du tout le personnage, je l'ai reçu. J'étais là, bon, un personnage comme un autre, quoi.
Ouais.
Je commençais à animer et tout ça, et puis je vois que c'était d'un autre jeu. En fait, je crois que c'est à partir de ce personnage, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres personnages d'autres jeux.
Ouais.
Et après, j'ai regardé un petit peu, et il y en avait quand même pas mal des packs de tout d'un coup, des packs par rapport à tel jeu, des packs par rapport à tel. Je sais pas, Capcom par exemple, j'en sais rien. Ouais. Tu avais des...
Ok, ouais, c'est des. Okay, des...
Ouais. Je dis Capcom, mais j'en sais rien. Alors,
ouais, ouais, bien
si
sûr,
jamais quelqu'un
me
dit non, mais il n'y avait pas.
Oui, d'accord.
Mais... c'est pas ma responsabilité. Hein, quoi.
Et donc, on va dire, le pire que tu as eu animé, c'était quoi ? C'était, si tu as un souvenir, le pire du pire.
Pour Lord of Familia ?
Ouais. Ouais, déjà.
J'ai pas le droit de parler de l'autre. Ah, il y en a un autre vachement plus chiant, mais.
Ah ouais, d'accord, ok. Bon,
alors, le pire du pire.
Ouais. Qu'est-ce qui est...
le plus dur en fait ou
ouais,
le plus
dur chiant. Quel était le truc le plus
dur, c'était un boss qui avait vraiment des tentacules partout, 4 bras et puis qui pouvait se tourner, ouais, un truc franchement je pourrais pas le décrire, c'était un monstre gigantesque.
c'était monstrueux
et du coup le rig était pas 100% super bien fait, du coup c'était super dur en fait.
Okay.
Mais le monstre lui-même était super cool. Du coup, ça me bottait de le faire, mais c'était le pire. Je pense que j'ai passé, j'ai passé pas mal de temps à essayer de faire ce que j'ai. Ce que tu vois, parce que c'est ça qui est toujours frustrant, c'est que quand tu rentres dans ce truc un peu factory comme ça où tu dois faire chaque jour, tu fais pas forcément ce qui te plaît. Forcément, parce qu'au bout d'un moment, t'es là, j'ai trop envie qu'il fasse ça, puis t'es là, monstre motivé, puis après tu dis, ouais, mais ça va me prendre deux jours, c'est juste pas possible.
Okay.
Donc tu lui fais une animation un peu simple.
Ouais.
Que tu sais que ça marche, que tu sais qu'ils vont pas dire non, mais qu'en même temps t'es un peu la bof, dommage quoi.
J'aurais pu faire mieux, mais j'ai pas le temps quoi.
Ouais, puis t'aurais pu faire plus original et plus cool et j'en sais rien, mais en fait non.
Donc, du coup, c'était un peu la question qui me venait à l'esprit. Alors, du coup, t'as bossé combien de temps pour quand t'avais ce
job-là ? Pour Inis ?
Ouais.
En tout, Inis, j'ai bossé une année et 6 mois.
Et puis, toi t'en ressors justement malgré le côté, parce qu'on peut avoir, tendance à imaginer, tu vois. Dans l'idée, le côté usine, c'est à la chaîne, on peut rien faire nous-mêmes, ça peut, dans l'inconscient, se dire quelque chose qui peut être négatif. Mais tandis que toi, comme t'en parles, il y a quand même une certaine énergie.
Ouais.
Et du coup, je voulais te demander, qu'est-ce ton tir, un peu comme une espèce de... Ouais, personnellement, humainement, qu'est-ce que ça a développé ou...
Alors, comme j'ai dit avant, moi, j'essaie quand jusqu'où je peux, si tu veux, voir les choses positivement et voir ce que je peux tirer d'une situation, etc. Il y a eu une période entre deux où vraiment j'ai failli faire une dépression, je crois. Non, j'en sais rien. En tout cas, j'étais vraiment pas bien à bosser pour Square Enix, mais sur un autre jeu. Mm-hmm. Et là, j'ai failli quitter la boîte à ce moment-là pour des raisons comme ça. Et je me suis dit, attends, t'es là-bas, t'as encore des trucs à apprendre. Essaye de voir si tu peux pas causer avec les gens pour déplacer d'un projet, parce que là t'en peux plus et dire juste que t'as sur le cœur, etc. Et ça a marché. Et du coup, au final, ce que j'en retire réellement, c'est d'avoir fait une bonne expérience dans une grosse entreprise au Japon sur le jeu vidéo, uniquement d'avoir vu comment ça se passe de A à Z. Et en fait, c'est au moment où tout d'un coup, ça, c'était positif et toute mon expérience était là. Ah ouais, bah, j'ai passé ce cap de la dépression que probablement une pétée de gens font, mais comme ils se sentent pas de... Je me sentais un peu enfermé, bah, je me disais, ouais, mais si je... Enfin, mon visa, mes machins, peut-être que je vais plus pouvoir vivre au Japon si je quitte maintenant, ça va être... Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, ouais.
Mais une fois que j'ai passé ça, tout d'un coup, je me suis senti libre parce que probablement plein de, par exemple, Japonais n'arriveraient pas à faire parce qu'ils ont, j'en sais rien, ils ont une famille, ils doivent continuer à bosser ça. D'avoir vécu ça et puis d'avoir réussi à passer le cap et puis ensuite, je suis retourné sur Lord of Vermilion, j'ai fait des trucs assez sympas, etc. Bah, finalement, le tout était super positif parce que ça m'a donné de la confiance en moi, ça m'a donné de la technique. Enfin, j'utilisais pas tous ces programmes, maintenant je sais utiliser. Je sais plus ou moins comment créer un jeu de A à Z. Avec tout ce que ça implique, ça veut dire que tout d'un coup, tu te retrouves sur des imprévus, forcément. Mais, mais vraiment, à ce niveau-là, c'était...
Alors d'ailleurs, à ce titre-là, hein, ouais, on fera un petit stop sur Vutraire, qui connaît très bien la problématique.
Mais on se passe en termes de rythme, de travail,
ouais.
Le fait d'avoir la contrainte du... vraiment de produire un truc par journée,
ouais.
Ça doit être aussi assez agréable de se dire, à la fin de la journée, on voit son travail, on est là, ok, je l'ai fait en une journée.
Ouais.
Je pense qu'il doit avoir un truc qui doit être... assez
Alors je sais pas, j'ai pas eu l'inverse, j'ai pas eu vraiment, bah si tu veux, avant en Suisse ou comme ça, j'essayais de faire des jeux vidéo par moi-même, mais il y avait jamais le truc vraiment officiel, on va faire un jeu vidéo, on arrive jusqu'au bout. Du coup, j'en sais rien comment c'est d'habitude. Moi j'ai connu le truc Factory où finalement c'est tu fais qu'une chose, je fais que de l'animation, tu reçois les choses le matin, le soir t'essaies de finir, ou dans deux jours, etc. Quand t'as terminé, t'es là, oh, on passe au prochain, et t'as pas le temps de respirer, mais t'es tout le temps là-dedans, donc t'évolues, donc ça a du positif, du négatif. Ça t'usure aussi des fois tu dis, ouais, mais attends, j'adorais faire ça avant, et puis là, ça me casse les couilles tout d'un coup. Et ça peut être aussi un truc, voilà, mais finalement, c'était assez bien, parce que moi, je faisais du dessin toujours, et finalement, j'étais content de pas avoir fait du dessin mon job, en fait, d'un côté.
Ah, ok, d'accord.
Pour pas perdre ça, tu vois ce que je veux dire ?
Et au niveau de, comme tu dis, tu reçois les choses et tu les fais. Bon, là, t'étais un sous-traitant.
Ouais.
Mais est-ce que tu sais, peut-être, je sais pas, t'as peut-être parlé avec d'autres gens du monde du jeu vidéo au Japon.
Ouais, ouais.
Mais est-ce que dans les boîtes, si t'es, par exemple, au sein même de Square Enix ou au sein même de Nintendo, ouais, est-ce que c'est très pyramidal comme ça, ouais, la création d'un jeu? Ou est-ce que, quand tu bosses vraiment pour Nintendo, est-ce que les gens qui font l'anime, est-ce qu'il y a un peu comme, on entend beaucoup les studios occidentaux, par exemple.
Ouais.
En règle générale, on entend beaucoup ce côté, très horizontal comme ça, avec des gens, tout le monde peut donner un peu son avis, ou est-ce que le Japon c'est
vraiment... Non, c'est quand même très pyramidal.
Okay.
Alors on est sur des open space, ça oui, mais ça, si tu veux, il y a quand même par exemple, nous on avait la team animation, dans la team animation il y avait le lead animateur, et suivant le projet dans lequel tu bossais, il y avait un type qui s'occupait, mais c'est normal, si tu veux, ça devient tellement grand qu'au bout d'un moment il y a un gars qui doit s'occuper de sa team en dessous, et donc ça fonctionne comme ça, si tu veux, t'as un gars qui s'occupe de tel projet. Dans tel projet, il dit, toi, en tant qu'animateur, tu t'occupes de tout ce qui est animation. Donc, tu regardes avec les autres animateurs et tu te débrouilles. Et finalement, ça fonctionne assez bien comme ça. Simplement, après, c'est clair que tu... Par exemple, si moi, je voulais donner mon avis sur quelque chose, je pouvais donner avec mon supérieur direct, en quelque sorte, ça veut dire le senpai avec qui je bossais. Mais tu pouvais pas changer quoi que ce soit sur le projet, forcément pas quoi. Tu pouvais pas dire, mais tu penses pas que cette texture elle est moyenne, etc.
Ouais,
va le dire au gars qui fait les textures, et puis tu vas le dire au gars, et puis il dit, ouais, ben oui, ils ont demandé ça. Enfin,
il y a trop de monde pour pouvoir.
Voilà.
Ok, mais je pense qu'effectivement.
Typiquement, Square Enix et Nintendo. Là, je viens de déménager à Kyoto et j'ai réfléchi à aller à Nintendo, tu vois. Et j'ai eu quelques contacts de gens qui sont allés à Capcom et puis Square Enix. Ouais, si, j'avais un contact à Square Enix aussi, mais c'est des grandes boîtes qui ont énormément de pression pour faire des jeux bien, et du coup, en tant que travailleur, c'est juste horrible, quoi, parce que t'as 2 minutes de retard, tu vas direct voir le gars, et puis il t'engueule, et puis il te dit, bon, bah écoute, enfin non, c'est vraiment des trucs...
Ah, c'est pas l'ambiance à la...
C'est pas l'ambiance à la Google, quoi.
Ouais, ou à la Naughty Dog aussi, je pense toujours à Naughty Dog, qui sont toujours dans les vidéos, ils sont toujours un peu là, genre, tout le monde s'aime, c'est
cool. Ouais, bon, après, il y a les vidéos, puis comment ils sont dedans.
Oui, on est d'accord, mais il y a ce côté, les Américains, en tout cas, cultivent cette apparence de... Je pense que ce qui donne moins cette impression, c'est Ubisoft, quoi, un côté un peu plus... On sent que quand on est à 800, prend 900 personnes, ça carbure aussi un peu comme dans le sens que tu dis, mais il y a toutes ces boîtes effectivement qui sont de taille un peu plus restreinte, comme Naughty Dog, effectivement on a cette apparence un peu de genre on est tous copains, il y a tout le monde qui peut dire son avis.
Mais si tu veux, dans Innis où on était, c'était un peu ça l'image, si tu veux. C'était que tout le monde était assez ouvert, etc. Mais après, en tant que personne réellement, les gens qui vraiment étaient ouverts et causaient, il y en avait très peu finalement, parce que t'es dans une culture où il y a aussi des gens, pas forcément la culture, il y a des gens qui viennent pour travailler, qui viennent pas pour s'éclater, qui viennent pas forcément pour partager qui que ce soit, ils travaillent, ils rentrent comme quelqu'un.
Ouais, c'est leur job, quoi.
C'est leur job, et puis ils ont pas forcément. Donc après, ça c'est un peu délicat à généraliser, disons. Mais les grandes boîtes comme Nintendo, Square Enix, Capcom, ce genre de trucs, c'est pas forcément une partie de plaisir, je crois. Et d'ailleurs, j'ai refusé, je me suis dit que j'allais pas y aller.
D'ailleurs, du coup, t'as refusé, et maintenant
Pa-pam. Alors, j'ai quitté la boîte Innis, et puis j'ai commencé un jeu. En fait, j'avais commencé en même temps que je travaillais à Innis à réfléchir à un jeu dans un scénario que je faisais depuis longtemps qui s'appelle Spirit. C'est en parlant avec David Javet.
David Javet, mais
ça serait bien qu'il soit là parce qu'on connaît David et puis on l'aime beaucoup.
Oh oui, il fait des jolis articles sur notre site, n'est-ce pas? Mais je pense que peut-être, est-ce que tu as des pouvoirs magiques, putain?
Bien sûr, j'ai des pouvoirs magiques.
Alors, tu serais gentil de nous invoquer, David Javet, s'il te plaît.
Il faut que je me concentre juste quelques instants.
D'accord.
On mentalise tous ensemble.
Mm-hmm. Ok. On doit faire un homme ou quelque chose?
Enfin, vas-y. Ouais, on fait un homme. On fait un homme. Y'a plus de papier dans les toilettes! Ça a marché! Mais pourquoi on va m'enfermer dans les toilettes? Bonjour tout le monde!
Merci de l'invocation, a marché. C'est magnifique, hein, ces pouvoirs magiques, c'est très très pratique.
Bonjour tout le monde, je suis un peu en retard.
Alors maintenant, on refait la même chose avec Miyamoto, s'il vous plaît.
J'ai eu des problèmes avec dernièrement. Quand
ah, d'accord, ok. Ah bon, alors on l'invoque pas. Alors bonjour David!
Hello, hello Sandro!
Ça va?
Hello Rinaldo, hello Vutraire.
Donc, tu travailles.
Pourquoi vous m'avez invoqué?
Alors, t'as invoqué parce que. Rinaldo était en train d'expliquer, parce qu'apparemment il te connaît.
Donc, je disais que quand j'étais à Innis, on a parlé pas mal avec David qui était au Japon. Et on a discuté autour d'un verre d'abord du projet que j'avais envie de faire. Et on a pas mal fait des ping-pong, brainstorming et tout ça, ça m'a motivé à me dire je me lance vraiment là-dedans. Et je sentais du coup j'avais un peu de soutien, si tu veux. À l'époque c'était encore un soutien très si t'as des questions n'hésite pas, on en parle quand tu veux.
C'était très conseillé, ouais.
Conseillé, enfin, voilà.
Je pense que c'était important pour le coup, puis c'était aussi très intéressant pour moi qu'on s'amuse aussi à vraiment formuler pour le coup les idées.
Voilà, ouais.
Je pense que ça aide beaucoup à juste à vraiment en discuter, avoir un ping-pong.
Mais vous vous êtes rencontrés comment
Alors la première fois que j'ai rencontré Rinaldo, alors c'est un contexte complètement différent, c'était en 2011-2012 avec Mathieu Pellet de Chagata Games. Mm-hmm. On était en train d'écrire un article qui maintenant est sorti très longtemps après. On était en train d'écrire un article universitaire dans un livre pour le MIT. On a écrit l'entrée encyclopédique en fait sur le jeu vidéo en Suisse dans un livre du MIT qui encyclopédise les différentes histoires du jeu vidéo selon les pays. Et j'étais tombé sur le travail de Rinaldo sur Internet, un des premiers jeux qu'il a fait, avec juste une sorte de shoot 'em up, justement, que j'avais déjà trouvé vraiment très intéressant, avec un poulpe.
Forcément.
Et autres.
Chagata Games, un shoot 'em up.
Voilà, donc on voit un poulpe. Un shoot 'em up. En plus, il y a du poulpe. Donc, on est heureux. Et puis,
il y avait très peu de
choses sexuelles.
T'as un peu raté ton jeu sur
Mais bon, avec le poulpe, on n'est jamais très loin du sexuel. Donc, ça va. On a déjà fait le premier pas, ça va. Mais, et puis donc, je m'étais donné un petit peu comme idée à l'époque de contacter à peu près toutes les personnes dont on voulait parler dans l'article, en fait. Faut savoir qu'on était en 2010-2011, c'était presque un peu le wasteland Falloutien, le jeu vidéo en Suisse. Et donc c'était tout à fait envisageable en fait d'envoyer un email à peu près toutes les personnes qu'elles soient en Suisse allemande, en Suisse italienne, enfin qu'elles soient Suisse italienne ou Suisse romande, pour déjà leur faire savoir qu'il y avait une histoire du jeu vidéo suisse qui était en train d'être plus ou moins rédigée, et puis bien sûr si jamais ils étaient disponibles de les rencontrer. Puis donc j'ai rencontré Rinaldo qui faisait une exposition à Cérulum à l'époque de ses dessins. Donc on s'est rencontrés à Lausanne, on a discuté très brièvement, on lui a montré un peu justement Nande Yannen de Chagata Games, et c'est seulement après, lors de certains de mes voyages au Japon, qu'on s'est revus.
Comment ça s'est fait quand t'es venu au Japon, je t'ai pas fait genre hey, « Eh mec, on se voit !» Non, c'était cool.
C'était quelque chose à peu près comme en fait. On s'est vraiment écrit « Je suis sur Tokyo, t'es sur Tokyo, allons boire un verre.
Voilà, » ouais.
Okay.
Et puis à travers ça, en fait, c'est assez intéressant parce que complètement à côté de Spirit, en fait, on a aussi, il m'a aussi donné la possibilité de rencontrer pas mal justement la scène Tokyoïte, ouais. Qu'elle soit japonaise ou, enfin, de toute façon, de plus en plus, j'ai l'impression qu'en fait, on a assez fort, en tout cas à Tokyo, ce sera intéressant de voir à Kyoto, toute une communauté aussi de développeurs ou de gens justement qui, par exemple, comme Rinaldo, travaillent dans des boîtes. Quittent ces boîtes où ils restent et puis font leur jeu de leur côté. Mmh. Donc il y a vraiment aussi toute une communauté qui commence aussi un petit peu à se cristalliser à Tokyo même et qui est très intéressante.
C'est marrant parce qu'au final, on a une impression de l'Europe souvent que l'indé japonais, le lieu commun qu'on entend, ça n'existe pas, entre guillemets. C'est ça qui est rigolo. Il y a une espèce de perception que c'est le jeu indé, c'est occidental, c'est pas japonais. Alors que pourtant, apparemment, alors est-ce que c'est en train de se créer ou ça existe puis ça vient pas chez nous?
Alors en fait, c'est comme, ça vient moins chez nous, on va dire, parce que de toute façon, il y a une surproduction à l'heure actuelle dans le jeu vidéo qui est tellement énorme que c'est très difficile de jouer à tout.
Il n'y a pas beaucoup de place non plus pour l'instant encore dans le sens où il y a plein de gens qui le font. Qu'ils le partagent, mais comme au Japon, ils commercialisent, tu vois, il y a des pubs de jeux un peu partout, quoi, tout le temps. C'est difficile de sentir que tu as une place en tant qu'indie, si tu veux.
Ça fait que c'est intéressant, ça fait qu'ils doivent plus utiliser justement les réseaux de communication américains, européens et autres. Ça fait que c'est juste tout à coup, tu as des équipes d'indie japonais qui doivent faire leur site internet en français, en anglais, qui tout à coup essayent vraiment pour le coup d'utiliser les réseaux indiqués.
C'est les rares japonais en général qui viennent dans des soirées indie justement. Voilà, en général, tu as le trois quarts, c'est des non-japonais. Et puis t'as 3 japonais, 4 japonais qui sont là et puis qui viennent proposer leur indie, puis qui sont tout contents parce qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt à ce qu'ils font en dehors de leur boîte. Parce que c'est assez spécial du coup.
Mais c'est vrai qu'après, c'est le Japon, c'est Tokyo, 28 millions d'habitants. Et une fois qu'il y a un trend, une fois qu'il y a une énergie qui est lancée, c'est très impressionnant comme ça démarre.
Par exemple,
on le voit aussi avec les jeux de cartes, les jeux de plateau. Ouais. En 3 éditions, on passe, c'est le Japan Game Market ou le Tokyo Game Market, je ne sais plus, on passe de 30 exposants, maintenant on est à 600 exposants en 3 éditions.
Oh, puis alors là, en plus de ça, ce qui est fou, c'est que ça a pris aussi vraiment une dimension internationale pour le jeu de cartes,
internationale
très rapide.
Bien sûr, avec
le jeu japonais, on en entend énormément parlé dans le milieu du jeu de société.
Et donc c'est probable que cette énergie-là, elle est très comparable. Mais ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, de plus en plus, tu auras justement des jeux principalement faits à Tokyo ou à Kyoto ou à Osaka avec des équipes hyper mixtes, tu vois, avec deux japonais, un expat américain, un expat français et des choses comme ça. Donc t'as une sorte de... Ouais, t'as vraiment une nouvelle dynamique.
Moi, pour le indie, j'ai l'impression qu'il y a encore peu d'équipes mixtes. Soit que des noms japonais, soit un ou deux japonais ensemble, mais c'est encore super rare parce que la manière de travailler et de penser, par exemple, typiquement, pour revenir à Spirit en fait, mais
j'ai pas fait exprès,
c'était pas du tout calculé. Mais au début, si tu veux, quand on causait, j'avais un ami producteur japonais qui avait produit par exemple des Pokémon et puis un autre jeu qui s'appelle Denpaningen et qui lui, si tu veux. Au début, c'était aussi du conseil, et puis il me présentait plein de gens alors des animateurs, des gens. Il me dit, ah, mais si jamais tel gars, il pourrait te faire un site, tel gars, il pourrait te faire ça, si jamais lui, il n'en savait rien, mais il me faisait en sorte que je voyais ces gens. Du coup, il y avait un animateur qui bossait à Square Enix, d'ailleurs, pendant un bon moment, qui lui avait aussi quitté sa boîte pour faire autre chose, mais il était tellement occupé, si tu veux, qu'il a essayé de faire un début de mode. Ah non, c'était pas un animateur, lui, c'était un modeleur, l'animateur, il était dans une autre boîte. Mais du coup, j'ai rencontré des gens comme ça et je me rendais compte qu'en fait, la manière de travailler, c'était tellement différent que ça allait pas matcher. En fait, ça allait.
Okay.
Il y avait un truc qui était, si tu veux, ouais, il y avait une énergie qui était vraiment différente. Et du coup, je pense que quand même, c'est assez rare. Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, c'est assez rare les groupes vraiment mix, quoi.
Ok.
Il y a pas mal d'expatriés justement qui font leur jeu. Ça, c'est, il y en a beaucoup. Et puis de japonais souvent seuls, étonnamment, seuls ou à deux comme ça, qui font leur jeu ensemble. Et puis en général, c'est des potes depuis qu'ils sont depuis un moment où ils sont rencontrés dans la même boîte, puis ils se sont dit ah ouais, mais nous on a le même genre d'idée de trucs.
Ouais, ouais, ça ce serait effectivement quelque chose qui serait intéressant de voir au Beat Summit, qui est donc un peu le festival indie qui a pas mal démarré.
Ouais, ouais, dont on entend même parler.
Voilà, dont on commence à pas mal entendre parler, qui est donc un festival à Kyoto, de voir justement combien il y a d'équipes. Enfin voilà, ouais, quelle est la diversité entre guillemets nationale dans les équipes. Mais bon, de toute façon, ouais. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a vraiment des dialogues qui se mettent en place. Okay. Il y a vraiment des échanges.
Voilà. Voilà. Plus en plus.
Ouais, au final, comme nous, on a ici avec Meetup, mais à échelle Tokyoïte, quoi.
Bah oui.
Ou de échelle gigantesque avec une industrie qui est beaucoup plus développée que chez nous. Mais on retrouve au final, comme tu dis, cette idée des gens, quoi.
Ouais, c'est des gens.
Qui se retrouvent.
Ouais, ouais. Et c'est vrai que Rinaldo parlait justement de cet ami qui pour moi est un poste très intéressant pour le coup dans en guillemets l'industrie du jeu vidéo japonaise, puisque c'est quelqu'un qui bien sûr qui est producteur mais qui est aussi un placeur en fait.
Ouais. Il fait les deux en fait. Il est producteur dans une boîte et en même temps il a créé un peu sa boîte tout seul.
Le chasseur de tête comme ça.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est si ça. Tu veux, il va essayer de faire en sorte de trouver des gens pour des jobs qu'il trouve ailleurs et essayer de faire les gens se rencontrer.
Voilà.
Ouais, donc, tu peux te retrouver à des soirées avec lui.
Avec des gars qui ont.
Avec quelqu'un qui travaille à Capcom, quelqu'un qui travaille à Arc System Works, quelqu'un qui travaille à Nintendo.
Voilà, c'était cool d'ailleurs.
Ouais, celui de Nintendo, il ressemblait énormément à Donkey Kong. Ça nous a bien rire.
J'espère qu'il comprend pas le français.
Non, mais c'est ça que je lui ai dit. Donc, il avait un polo Donkey Kong spécial du Nintendo Club.
Ah, il est corporé juste dans son physique. C'est bon ça.
Jusqu'au bout.
Tu mutes quand tu travailles à Nintendo.
Donc ça c'est des gens très intéressants parce que c'est vraiment des gens qui sont freelance, donc qui se font injecter en fait dans différents projets et puis c'était intéressant de discuter avec eux. J'ai justement d'essayer d'élaborer le ranking des boîtes où c'est le plus strict et des boîtes où c'est le moins strict puisque certains en ont parcouru justement plusieurs. Sega,
on a le droit de savoir ou le ranking.
Tout le monde s'accordait pour dire que Nintendo était un des pires.
Ouais.
Okay. Ah ouais, à ce point-là.
En fait c'est grâce à ce genre de rencontre là, si tu veux, que moi je me suis fait aussi mon idée de me dire je vais essayer de plus aller dans des énormes boîtes. Là, par exemple, bon, mais on va, si tu veux, pour ce qu'il y a de maintenant, je suis en train de rechercher du travail dans une boîte, si possible, mais je réfléchis vraiment beaucoup parce que je me dis, ouais, bon, si je suis en freelance, ça me permet de continuer Spirit parce que là, on est sur un prototype, on en parlera après.
Oui.
Mais par exemple, je suis en train d'y réfléchir vraiment, c'est de me dire, mais je vais aller dans une petite boîte vraiment genre de 5-6 personnes, où tout d'un coup c'est plus relax parce que les grosses boîtes, justement, ça devient trop, quoi. Ça devient trop. Finalement, ce que tu fais dedans n'a plus vraiment de différence avec une grande banque ou avec un grand. Tu vois, avec les salariés, parce que c'est du produit, c'est du business et toi, t'es un rouage dans le.
Ouais.
Ouais, bon, après, c'est une question personnelle aussi.
Oui, non, mais
peut-être qu'un rouage, peut-être.
Je comprends effectivement le
puis
problème.
Puis je crois ce qu'il disait aussi principalement par rapport à Nintendo, c'est vraiment. Parce que, alors, justement, ce freelancer nous disait justement qu'il avait, comme Rinaldo, très envie de lancer son propre projet à lui, de vraiment s'exprimer dans son univers à lui et autres.
Ouais.
Et puis, c'était principalement par rapport à ça qu'il disait que Nintendo, c'était vraiment porte fermée, quoi.
C'était
très difficile pour le coup de s'adresser à un responsable game design ou pour peut-être essayer de lancer son propre
projet. C'est vrai qu'on voit que c'est une société qui a ses game designers phares, qui sont là depuis longtemps, c'est aussi quelque part sa force, mais effectivement, travailler sous leurs ordres, ça doit pas être. Effectivement, c'est comme d'aller dans grand chose comme l'attitude.
Voilà, c'est comme d'aller dans les studios Ghibli et puis tu fais du Ghibli et puis tu.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est effectivement.
Il y a un moment donné.
Tu fais Miyazaki ou Takahata et puis un point
c'est. Voilà,
et puis c'est tout.
Mais c'est ça ce qui fait d'ailleurs de Splatoon un jeu particulièrement intéressant parce que justement, c'est un peu la nouvelle vague Nintendo. Mais c'est probable que ce soit que ces deux.
Ben voilà, c'est deux-là qui vont devenir les futurs Miyamoto, Nomura, etc. Puis voilà, mais c'est le fonctionnement, ouais. Effectivement, inévitablement, c'est un peu obligatoire. Si tu veux faire des jeux aussi de cette ampleur-là, avec voilà, une marque si forte, avec une patte et tout, bah, t'es obligé d'avoir des gens derrière qui suivent et puis qui font ce que tu
bien
dis.
Bien sûr, ouais, c'est sûr, c'est sûr.
C'est vrai que bah, je pense qu'il y a des gens, encore une fois, c'est une question de caractère, parce que je pense qu'il y a des gens, comme tu dis, il y a des gens qui n'ont pas ce besoin d'avoir, d'apporter quelque chose artistiquement, mais qui aiment juste faire leur travail et puis ont le plaisir de bien faire ce qu'on leur demande de faire. Puis il y a d'autres qui ont cette, bah, comme toi, t'es parti de l'artistique profondément, de quelque chose où tu touches à tout. Et effectivement, je peux comprendre qu'on s'épuise au niveau de l'énergie si on n'est pas fait pour ça, en fait, et qu'on a besoin d'amener des choses, d'envoyer des choses.
Exactement, c'est une question de caractère, et c'est pour ça que ça fonctionne. Si vraiment ça fonctionne, s'il n'y avait pas des gens qui aiment faire ce qu'ils font et puis que ça leur va comme ça, et ben ça fonctionnerait pas, typiquement, tu vois, toutes ces boîtes.
Bah, donc, du coup, alors, le projet,
voilà.
Racontez-nous un peu ce projet, dites-nous, alors, pitchez-nous ça.
Comme on a commencé justement à en parler, c'est vraiment Rinaldo qui est à l'origine vraiment des idées, des images, du game design central, on va dire, du jeu. Et puis moi, je l'ai rejoint là-dedans pour deux raisons. Tout d'abord parce que je pense que c'est un projet qui mérite d'exister, parce que tout simplement ça m'a énormément parlé. Et puis
tu poursuives, juste donne-nous alors du coup ta pensée de base, quelle était ton idée de base, jusqu'à ce qu'après David arrive.
Tout en précisant qu'on ne peut pas dire.
Voilà,
tout,
exactement.
Oui, non, mais évidemment, alors, on pense bien, mais juste si tu peux nous.
Je pense que ça parlera à Vitrer, qui est aussi très mystérieux sur son jeu.
Alors, c'est difficile. On reste. Tu veux, j'avais un scénario qui me tenait à cœur vraiment depuis longtemps, qui est la base du jeu. Et comme c'est un scénario, enfin c'est un jeu à scénario, on va pas le dire parce que du coup il n'y aura plus d'intérêt à y jouer. Mais disons que ce cœur là, il fallait que je l'exprime d'une manière ou d'une autre, et du coup j'y avais réfléchi beaucoup de manières au début. Je me disais peut-être dessin animé, peut-être BD, j'avais déjà commencé des storyboards, des choses comme ça. Et c'était justement à Inis où tout d'un coup j'ai commencé à me dire, ouais, mais en tant que jeu vidéo, ça permettrait aux joueurs de pas savoir ce qui va se passer, etc. Tu vois, il peut pas aller à la dernière page et puis voir la fin. Ça serait un film, mais qu'est-ce qui est différent du film, c'est que c'est lui qui choisit s'il va à droite et puis que c'est une image, mais s'il va à droite et que le chemin de gauche se ferme au moment où il va à droite, qui lui donne qu'une partie de l'histoire, et puis que du coup il est à merde, en fait attends, mais il y a peut-être autre chose, et puis quelqu'un d'autre lui parle qu'il a joué au jeu, puis qu'en fait lui ça s'est passé comme ça, puis il a non attends, c'est pas possible, moi j'ai compris ça, et qu'il y a tout d'un coup un débat, une sorte de discussion autour du jeu, de la compréhension que tu as eue, du feeling que tu as eu par rapport au jeu. Il y avait aussi cette chose d'expérience émotionnelle aussi qui était super importante pour moi. D'où, par exemple, on a décidé, dès le début, on s'est mis des limites, en parlant aussi avec David, par exemple, on met pas de texte, on raconte, on n'explique rien. Enfin, on n'explique rien de manière textuelle ou sonore avec des gens qui parlent de quoi que ce soit. Du coup, c'est de l'image et du son.
Okay. Ouais, et puis là... en fait, il faut savoir que Rinaldo a aussi. C'était une époque où il dessinait énormément de personnages. En fait, il avait tout un carnet de différents monstres et autres. Ouais. Donc, c'est mélangé en fait ce dont il est en train de parler. Donc, cette idée en fait de vraiment une sorte de jeu à parcours initiatique, à expérience. On pense plus à Journey ou un Limbo par exemple, et mélangé justement avec cette envie justement de créer des personnages, de peupler un univers, de peupler des villages et autres, de différents types de personnages. Et vraiment la première idée qu'il a fallu formuler en game design, mais avec laquelle il m'a approché en parlant du projet, c'était une idée en fait d'avoir vraiment un système à deux niveaux, en fait d'avoir vraiment un jeu. Alors très vite, toi t'avais cette idée d'avoir quelque chose d'isométrique, donc d'avoir une vue isométrique du monde et du personnage. Et c'est ça que j'ai trouvé tout de suite très intéressant, c'est cette idée d'utiliser l'isométrique pour jouer en fait sur un gameplay, un monde à deux plans, en fait. Donc c'est à dire qu'on a le personnage principal qui se réveille au début du jeu, qu'on peut commencer à manipuler, et donc qui va se rendre compte assez rapidement, ça on va pouvoir le dire coup, qui va se rendre compte assez rapidement qu'il existe sous le monde dans lequel elle évolue un autre monde, et donc en fait tout le game design,
c'est de passer d'un à l'autre,
c'est de passer,
et découvrir en fait les deux espaces, disons.
Donc pour les gens qui ont été donc c'est vraiment on voit en transparence le monde du dessous, c'est vraiment quand on appuie sur un bouton, c'est la même carte, mais
on voit en transparence le monde de dessous. Donc comme ça on n'est pas complètement perdu, mais le monde de dessous et dessus ont des liens forcément, mais visuellement ils sont vraiment différents, c'est deux mondes vraiment qui sont liés mais qui sont pas les mêmes du tout. C'est pas d'accord. Genre c'est pas le deuxième étage d'un immeuble ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire.
OK, d'accord, ouais.
Et du coup, ben ce qui se passe en haut influe sur ce qui se passe en bas influe sur le haut et le but c'est de jouer avec ça. Et okay. Avec les personnages qui sont en bas, en fait, d'interagir avec pour pouvoir avancer et comprendre l'histoire.
Voilà. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une idée. Alors, le monde du dessus est un monde. Voilà. Après, les gens peuvent se faire aussi leur idée, mais que je trouve qu'il y a beaucoup de liens avec un univers assez aquatique. Et il y a vraiment l'idée, le personnage principal peut, en observant justement le monde du dessous, c'est pour ça aussi que l'isométrique fonctionne bien, parce qu'on a cette idée du double plan en fait, constant. Par exemple, si on avait fait le jeu, si on avait fait un platformer 2D, on faut plus s'imaginer peut-être à des trucs à la Runbow et autres, avec des changements de plan.
Pour donner une image, je pense, assez juste à ceux qui auraient peut-être pas encore vu le jeu, bon, bien que je pense qu'on va mettre une image en première pour que les gens se voient, mais ça m'a beaucoup fait penser au niveau visuel, au niveau de cet angle. À Bastion ou à Transistor,
voilà, exactement,
au niveau de l'angle de vue et puis de voilà.
Exactement.
Ouais, c'est des jeux d'ailleurs visuellement qui m'ont pas mal parlé à ce niveau-là. Moi, je voulais ajouter aussi un autre truc sur la motivation à faire ce jeu. C'était aussi que depuis que je suis petit, j'ai un univers qui est personnel, qui est dans ma tête, si je peux dire, et que j'ai toujours voulu exprimer. C'est pour ça que j'ai fait de la musique, j'ai fait plein de choses. Et que tout d'un coup j'avais la possibilité, vu que moi je lâchais, c'était ma responsabilité en quelque sorte, hein, au début c'est je lâchais le truc, je pars sur ce projet, j'avais tout d'un coup 100% de liberté de faire ce que je voulais, si tu veux. Et du coup je me suis dit bon bah je vais pas réfléchir trop à qu'est-ce que c'est cet arbre, comment je vais dessiner tel truc, je dessine ce que je dessine d'habitude et je crée l'univers. Et du coup forcément visuellement moi dans mon histoire j'ai des artistes que j'aime, il y a des jeux que je trouve visuellement beaux, il y a des
on en parlera après d'ailleurs.
Voilà.
Je questionnerai.
Et du coup tout ça forcément on peut maintenant peut-être commencer à le retrouver et puis se dire justement voilà, visuellement c'est peut-être il y a quelque chose de Transistor, là il y a peut-être
Ouais, puis je pense que c'est peut-être aussi là où ma place dans le narrative design se fait, c'est-à-dire je trouve qu'effectivement tu es très très libre dans ce que tu dessines. Très souvent avec tu dessines avec beaucoup de sens, avec beaucoup d'idées, et puis bien sûr après il y a vraiment toute l'idée de créer de la cohérence, de créer des liens, d'avoir vraiment une résonance entre ce que le joueur fait, ce qu'il voit, de vraiment aussi créer de la compréhension.
C'est clair qu'au début mon monde était beaucoup trop grand en fait, si tu veux, j'avais tellement d'idées, j'étais là puis on peut mettre ça puis c'est incroyable et puis, puis du coup de la discussion déjà à deux ça fait que tout d'un coup le joueur il va peut-être pas comprendre ça, donc de mettre des limites. Et je trouve que c'est ça en fait qui est super dans la création de manière générale, mais comme dans la vie de manière générale, c'est que si t'as aucune limite en fait tu te sens pas libre, enfin c'est un peu contradictoire, mais si t'as vraiment une liberté totale, t'es là je m'assieds, je sais pas, je peux faire ce que je veux, et du coup de limiter chaque fois, que ce soit dans le gameplay, soit ok mais tu veux amener ça, comment on va l'amener, parce que finalement on est en 3D isométrique, typiquement il y a des choses que tu peux pas apporter. Par exemple, l'émotion sur le visage du personnage, vas-y, comment on va le faire, quoi.
On en a beaucoup discuté.
C'est très important de discuter par rapport à l'histoire, etc.
On a beaucoup discuté ces derniers temps. J'ai beaucoup observé, justement, tu parlais de Bastion et Transistor, tout simplement les raisons pour lesquelles Supergiant Games, ils utilisent autant des narrateurs. Puisque l'isométrique est très dangereux à ce niveau-là, puisque c'est très difficile d'avoir un rapport émotionnel. Donc avec justement le personnage principal.
Supergiant, donc je précise,
qui sont les créateurs de
Transistor et de Bastion.
Et de Transistor, voilà. Et ces deux jeux, où soit l'épée, soit dans Bastion, une sorte de narrateur omniscient, sont très présents. On les entend tout le temps parler, ils sont tout le temps en train de parler aux joueurs. C'est aussi des jeux qui ont vraiment, en termes d'interface, il y a une présence visuelle très forte de l'interface. On a des chiffres, des fenêtres qui s'ouvrent et autres. Et pour le coup, nous, avec Spirit, on veut une grande attache émotionnelle, mais en n'ayant pratiquement pas d'interface et pratiquement pas de texte. Enfin, même carrément
pas de narration, donc audio, rien.
Et tout à coup, le challenge
musical,
est vraiment là.
Si tu veux, musical, mais c'est un autre langage, c'est un langage beaucoup plus instinctif, à mon avis, plus naturel, mais du coup, qui peut parler à n'importe qui dans le monde. Voilà, c'était aussi le point important, c'était que n'importe qui peut jouer à des jeux, malheureusement, pas tout le monde peut le faire. Mais. Puisse entrer dans cette histoire-là qui est, à mon avis, une histoire très humaine. De nouveau, on rentre dans quelque chose de... Et c'était les points importants. Du coup, si on pouvait faire... On aurait pu réfléchir à se dire « Ah ouais, mais du coup, c'est un peu trop difficile. Alors, on va faire ça comme ça et puis on va quand même mettre du texte. » Mais tout d'un coup, on perd...
Faut beaucoup se retenir.
Cœur. Parce qu'on perd ce truc qui était le point principal. Et du coup, là où David aussi était, est toujours, mais très important, c'est que il y a eu des fois où tout d'un coup il m'a rappelé, il m'a dit mais mec, là je comprends pas ce que t'es en train de faire là. Mm-hmm. Tout d'un coup ça a plus rien à voir avec le cœur. Et puis moi c'est parce que j'essayais de faciliter le truc, et puis bah à l'inverse là c'était au crunch où c'est moi qui lui ai rappelé. Tu te rappelles ce que tu m'as dit, là c'est pas possible. Mais disons il y a un truc où finalement le fait de pas avoir commencé vraiment tout seul. Ouais. Mais c'est pour revenir aussi au fait que j'ai arrêté Spirit, j'ai arrêté Inis à ce moment-là, c'est que tout d'un coup je me suis senti ok. Je peux le commencer tout seul, mais je sais que je suis pas vraiment tout seul. Il y avait le producteur japonais qui était au cas où pouvait me présenter des gens et même limite me trouver des jobs freelance au cas où. Mm-hmm. Là maintenant je me suis barré de Tokyo, du coup c'est un peu plus dur, mais mm-hmm. disons il y avait ces gens qui étaient et David qui était là au cas où j'avais besoin de parler. Je savais que je pouvais lui dire, enfin le contacter, etc. Et du coup pour revenir comment ça a commencé Spirit, ouais. J'ai commencé seul ensuite, avec lui qui était là en conseiller en quelque sorte. Après il y a eu des gens qui sont venus, qui sont repartis, et la team a commencé à se créer peu à peu. Et tout d'un coup il y a eu un moment où on a dit bon écoutez les gars, ce jeu là il est en train de devenir un jeu, c'est en train de devenir quelque chose de, disons ça devient un projet concret. Moi j'étais toujours au début sur le truc, bah écoutez vous venez, vous partez comme vous voulez, moi je peux pas donner d'argent, mais quoi qu'il en soit je le finis même tout seul. Mm-hmm. Et puis je savais bien que, enfin je me disais bien que ça allait prendre des années, mais je sais pas, j'étais un peu, voilà. Et puis du coup à un moment donné on a dit bon écoutez on fait une team officielle, qui reste, qui part, on finit jusqu'au proto. Mm-hmm. Et puis bah, c'est là où tout d'un coup bah, on a dit bah, alors on a donné des noms pour qu'on comprenne qui fait quoi. Donc David, mm-hmm. en narrative designer, il y a aussi Cédric Reinhardt qui est le développeur principal on va dire, et mm-hmm. les trois on s'est dit bah, nous on est le cœur, ouais. de la team, et maintenant il y a d'autres gens, on est sept et... voilà, bah, juste 7, pour dire ouais. que tout d'un coup bah, moi j'ai fait 4 mois seulement à fond là-dessus. Et puis là, maintenant, c'est la première fois, par exemple, on a fait un crunch là ce week-end. Et c'est la première fois où tout le monde se rencontrait dans le même endroit, en fait, vu que j'étais toujours à Tokyo.
En fait, je pense justement cette distance. Alors, on parle à peu près tous français, mais cette distance, puis aussi le fait que chacun vive, entre guillemets, dans un espace culturel différent, je pense que c'est aussi ça qui nous a poussé à vouloir vraiment un jeu qui est très. Qui se détache énormément, justement, d'une narration textuelle, mm-hmm. où c'est vraiment très lourd en texte, hein, surtout les jeux japonais aussi ces derniers temps, sont très très lourds en texte. Il y avait vraiment l'idée d'être extrémiste pour ça, et puis ouais. vraiment de complètement s'en libérer, ouais. puisque Rinaldo parle beaucoup à travers ses dessins, ouais. alors pour le coup d'expérience je sais, hein, très souvent quand on va boire des cafés à Tokyo, tout de suite il va sortir un calepin, il va se mettre à dessiner,
et j'écoute les gens qui parlent quand même,
et voilà, il écoute, il écoute mais il dessine en même temps, puis c'est amusant, tout à coup on se rend compte que dans ses dessins vient un peu se mélanger les émotions de la discussion, ouais, ouais, et autres, qu'il change les couleurs qu'il utilise presque, ouais. suivant aussi comment on parle. Donc il a vraiment aussi pour le coup créé sa respiration en fait, et respiration comme ça, puis c'est pour ça autant pour le coup pour le jeu y aller à fond quoi, vraiment essayer de nourrir à travers du visuel, à travers justement une narration qui est vraiment sonore, visuelle, plutôt que d'imposer trop du textuel.
Petite question pour toi, d'habitude tu travailles avec Chagata, ouais. Ton collectif, est-ce que là ton rôle est un peu différent parce que tu es donc on a dit narrative, ouais. narrative designer, c'est ça?
Exactement. Ouais.
Comment est-ce que pour toi est-ce que ce rôle ressemble quand même pas mal à celui que tu as chez Chagata, ou est-ce que c'est complètement différent? Comment t'évolues là-dedans en fait?
Alors je dirais c'est différent parce que les choses que je fais se ressemblent quand même beaucoup.
Okay.
Une des différences, c'est que chez Chagata, j'écris aussi les textes, donc forcément il y a du texte. Avec Spirit, je vais probablement devoir faire aussi la même chose, c'est-à-dire des choses qui sont stupides, mais on n'imagine pas, mais c'est des choses qui prennent vite du temps. C'est-à-dire quand on met le jeu sur Steam, on doit écrire un texte de présentation du jeu. Quand on propose le jeu à Indiecade, à des festivals, on doit aussi écrire des textes. Enfin, il y a beaucoup. Mm-hmm. Finalement, on se rend compte que même un jeu sans texte, en fait, on est.
Il y a quand même beaucoup de textes.
Il y a quand même pas mal de
du jeu.
Il y a quand même pas mal de trucs à écrire. Ouais. Donc ça, de toute façon, je le fais aussi beaucoup avec Chagata. Mm-hmm. Et puis je m'occupe aussi pas mal de la communication, ce que je fais aussi à l'heure actuelle aussi pas mal, donc autour de Spirit. On essaye vraiment pour le coup puisqu'il y a une valeur visuelle forte, on essaie vraiment de rassembler beaucoup les gens autour de ce autour de cet aspect visuel, en les invitant à, en invitant des artistes qu'on connaît, des fois certains aussi qu'on connaît pas, vraiment aussi proposer leur vision pour le coup de l'univers du jeu, pour vraiment créer une, aussi quelque chose de très ouvert en fait, mm-hmm. d'avoir vraiment un ping-pong aussi où eux ils peuvent aussi profiter de nos espaces de communication, que ce soit sur Facebook, Twitter ou sur le site, et puis nous on bénéficie aussi de ça parce que ça nous nourrit aussi tout simplement de voir que notre univers inspire ces gens. Ouais. Et puis je dirais la différence principale, c'est tout simplement en fait la portée que j'ai envie que le jeu ait par mm-hmm. rapport à Chagata Games. Chagata Games, on a toute une idée justement de vraiment le jeu pour le jeu en fait, quelque mm-hmm. chose de très viscéral où on a vraiment envie de produire, de voilà, d'exploser des fois de manière un peu chaotique où on cherche moins forcément la structure, la construction et la perfection.
Et puis surtout après aussi derrière, on sent que vous avez pas cette envie de c'est pas l'objectif est pas forcément d'en faire un succès commercial ou c'est vraiment
voilà
c'est brut quoi ça
c'est
vient
très
du,
brut ouais. C'est très voilà c'est très sanguin je dirais mm-hmm. alors que Spirit j'aimerais vraiment un projet qui est plus réfléchi qui est plus pensé mm-hmm. qui est plus dans l'émotion tout enfin bon même mm-hmm. si Chagata Games est aussi beaucoup dans l'émotion mais qui est vraiment plus dans une voilà dans une dans quelque chose d'assez humain en fait mm-hmm. d'assez
ok
je dirais la différence
je crois que ça doit être là. Ouais puis aussi je sais pas, mais enfin pour revenir à Spirit aussi le style le comment expliquer vu que c'est parti de bon c'est parti l'idée sur laquelle elle est partie et le fond en fait de ce que j'ai envie d'amener sur deux trucs différents et je crois que sur ce fond là on s'est assez matché que ce soit avec David ou avec les autres parce que c'est un fond assez justement humain qui à mon avis on commence de plus en plus à le sentir parle aux gens. Mmh. Sans justement dire quoi que ce soit de texte ou sans expliquer quoi que ce soit et que du coup on sent qu'il y a, une, il y a vraiment quelque chose là qu'il ne faut pas lâcher en fait un peu et, que, okay. et qu'on doit, enfin moi c'est ce que j'avais senti au tout début, c'est pour ça que j'étais là un peu comme un finalement un peu comme un fou, si je réfléchis maintenant je me dis j'aurais peut-être pas maintenant j'aurais peut-être pas lâché la boîte de la même manière, j'aurais okay. peut-être pas dit mais écoutez les gars même si vous me lâchez je m'en fous je le finis, enfin c'est, j'ai pas dit comme ouais, ça ouais, mais tu vois ouais. le genre et je crois qu'au fur et à mesure l'équipe s'est créée aussi parce qu'on se dit il faut qu'on arrive à l'amener sur à l'amener au maximum de personnes possible ouais. en fait. Okay. Je pense, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec ça.
Ça me fait penser justement que le deuxième élément qui moi m'a vraiment donné l'envie de participer à ce projet, c'est vraiment pour le coup le courage de Rinaldo de vraiment vouloir s'y consacrer en tout cas
à
100%. À, en tout cas d'abandonner ouais. Inis, de faire confiance à sa frustration de pas être capable de mmh. s'exprimer complètement et de quitter Inis. Enfin vraiment c'est cette espèce de j'ai trouvé touchant en fait cette qualité de vraiment être capable pour le coup de se libérer de quelque chose pour vraiment aller
ouais alors qu'aujourd'hui effectivement les gens sont plutôt dans le en tout cas en Suisse je connais pas au Japon mais chez nous
ouais,
c'est
non,
vraiment
c'est
tu quittes ton travail voilà. t'es suicidaire quoi, ah, t'es ouais. fou
d'accepter de se mettre en danger
voilà ouais,
quel que soit de toute façon après la suite mm-hmm. hein, que et ouais. autres mais voilà vraiment se laisser se lâcher prise je trouvais était assez impressionnant puis je pense sans aucun doute que c'est quelque chose qui peut aussi nourrir mm-hmm. pour ce qu'on a envie de faire expérimenter donc
ouais
et du coup ça permet d'aborder la dernière chose que je voulais aborder c'était par rapport au financement comment est-ce que vous voyez les choses est-ce que bah justement parce que toi tu disais que tu vas retrouver du travail pour je pense pour travailler à côté pour pouvoir te
ouais,
permettre
ben,
de continuer
en fait, ouais.
comment est-ce que vous pensez que Spirit parce que le projet a l'air quand même relativement c'est pas un gigantesque projet mais c'est pas non plus un tout petit projet ça fait
ouais,
du enfin
ouais.
voilà comme on a les, ouais. les titres qu'on a évoqués Bastion des choses
ouais,
comme
ouais,
ça
ouais,
c'est des petites équipes qui sont pas grandes mais c'est des projets qui durent quand même 1, 2, 3 ans pour
avec
pouvoir,
du financement
voilà j'ai... avec du financement quand même en général donc ouais. comment est-ce que vous envisagez ça.
Enfin, quand j'ai parlé du travail avant, c'est juste, je suis en train d'y penser à toutes les possibilités qu'il y a. On a quand même réfléchi, mais ça, je laisserai après David en parler, mais à forcément du crowdfunding.
Oui.
Mmh. C'est un peu l'idée qu'on a encore maintenant, mais de mon point de vue, vu que comme Spirit a avancé jusqu'à maintenant, c'était un peu la même manière que j'ai trouvé que je suis rentré dans Inis et que je suis allé au Japon, etc. C'est des gens. Et c'est des rencontres en général fortuites, si on peut dire, donc mm-hmm. des rencontres un peu qu'on ne s'attend pas forcément.
Ouais.
Et de nouveau, là, c'est clair qu'on réfléchit, on a plusieurs comment dire, idée. On a une principale, c'est le crowdfunding, et puis c'est pour ça qu'on est en train de faire la communication comme ça, pour que peu à peu les gens s'intéressent et voient si ça leur plaît, qu'ils puissent nous apporter. Bah, par exemple, il y a les questions avant qu'il a amené de support art, où les gens vont prendre notre personnage principal pour en faire leur propre version, pour présenter, bah voilà, nous c'est comme ça qu'on imagine par rapport à ce que vous nous avez montré, etc.
Et vous avez eu déjà des, de ce côté-là, des belles choses, vraiment des artistes qui sont pas allés, bah peut-être donner deux, trois noms et qu'on se fasse une idée, mais c'est waouh quoi, c'est pour. Ouais.
Bah on a bah pour le coup on est content aussi côté suisse d'avoir aussi un soutien côté suisse, donc on a Swan Keller notamment qui est un concept artiste qui a été formé à l'EPAC hein, comme on en a parlé avant, enfin moi j'étais pas encore là, je n'avais pas encore été invoqué mais
quoi, tu nous écoutes, il nous espionne avant qu'on, c'est scandaleux quoi,
mais mon esprit flottait,
ouais non ancien. C'est un pur scandale,
mais oui puis on a des modélistes 3D, Alain Schloup qui nous a fait des qui nous a fait justement un modèle 3D assez incroyable. On vient de lancer un support art justement cette semaine aussi d'une artiste qui essaye elle aussi d'être illustratrice et puis de faire un peu son petit bout de chemin au Japon, qui s'appelle Jennifer Ciclari et autres. Donc on a vraiment, pour le coup c'est intéressant, parce que ça fait aussi des
aussi qui a fait un pixel art, qui a fait un pixel art très real life du personnage principal.
On n'a pas le droit de parler de la boîte dans laquelle elle travaille,
non mais on va pas en parler. Et il y a eu Valder aussi, Johan-Marc Valder, qui fait de la BD ici
oui,
en Suisse,
voilà,
qui a, voilà. Agnès Foucard qui a sorti donc Oslo
Oslo ouais
une BD sous je sais plus
j'ai Dupuis je crois Dupuis,
ouais. Et on peut les trouver où c'est pour que les gens qui nous écoutent puissent aller voir tout ça
ouais. Alors, on en sort un toutes les semaines sur le site spirit-thegame.com
ok voilà.
Et on aussi sur nos réseaux Twitter et Facebook, on essaie vraiment pour le coup d'avoir en tout cas moi je les reposte aussi régulièrement hein, pour vraiment que eux aussi ils bénéficient de la visibilité.
Voilà,
dès qu'ils ont un compte Twitter je le mets en avant,
voilà,
ont... okay. Il y a vraiment l'idée aussi de c'est assez rigolo pour le coup de se créer une sorte de galaxie d'artistes puis d'avoir vraiment un dialogue à ce niveau-là. Enfin moi en tout cas c'est quelque chose auquel je crois énormément, enfin vraiment l'idée d'avoir l'impression d'évoluer dans un plus que de faire son jeu dans un coin, mais vraiment d'évoluer dans une communauté en fait, et puis que son produit en fait soit aussi le reflet pour le coup de l'énergie de cette communauté.
Mais c'est peut-être là où je trouve qu'effectivement, moi c'est la première fois que je vois autant fait, et c'est peut-être là où ce que vous disiez, qu'il y a une énergie particulière qui est très humaine, qui risque de, ou peut-être c'est peut-être le reflet de ça au final, que il y a quelque chose. Effectivement, moi j'ai aussi la première fois que j'ai découvert le jeu, que vous avez montré les premiers visuels et tout, il y a quelque chose effectivement qui sonne juste où on est interpellé, on a envie d'aller voir, et je pense qu'effectivement je comprends que si je savais dessiner je peux vous en faire un si vous voulez. Alors moi je sais faire Toto et puis Toto,
mais j'aimerais beaucoup que Vutraire
Vutraire, ça c'est
le
magnifique.
Temps de
j'aimerais bien
de projeter son esprit malade.
Non voilà, mais c'est ça en fait, les poules mais j'ai pas envie de faire un truc abominable alors que j'ai envie de faire un truc chouette, tu vois. Mais ok, mais c'est noté,
mais ça serait top,
je vais essayer.
Maintenant que tu as fini le futur logo d'un coin de pixel.
Ah voilà.
Teasing.
Tu restez peux connecté.
On va faire un podcast que sur le nouveau logo.
Exactement. Non mais le pire c'est
comment tu fais ce logo.
Le pire c'est que dans les développeurs suisses, celui qui a jamais été, qui a jamais passé à l'interview, c'est Vutraire en fait.
Ouais,
alors qu'il fait partie du team
sur Stabilove ou
ah mon dieu, non
sur Don Killer,
on trouve un truc rigolo.
Ouais. Ah voilà, alors
ouais,
on
je pense qu'on risque de se marrer.
Mais alors après pour Spirit,
ouais, c'est
sinon
évident, revenir
c'est évident qu'on pense au crowdfunding.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Ça c'est sûr, ça semble être une des solutions. On a au Japon aussi, on a aussi la chance d'avoir effectivement aussi quelqu'un qui a fait savoir justement son intérêt pour le projet, qui est quelqu'un qui travaille aussi dans le publishing, qui a beaucoup de contacts, et voilà, et qui a vraiment aussi fait savoir son intérêt. Donc ça peut nous amener sur différentes voies, que ce soit la voie du crowdfunding, que ce soit la voie de l'édition pure et dure.
C'est ça que je voulais dire avant, c'est que là on a cette voie là mais qu'est-ce qui peut arriver. Un truc qui est sûr, c'est que ce cœur du jeu, on veut pas le changer. Donc si par exemple Sony nous dit oh, je vous rachète ça mais vous changez, puis vous faites un truc de baston à la place, bah je vais dire non, même pour 2 millions je dis non quoi. C'est, tu vois, même pour il me fait vivre 10 ans, je crois que je dis non parce qu'il y a pas, il faut, c'est ça le plus important. Après le truc c'est voilà, c'est que moi j'ai lâché ma boîte, enfin j'ai lâché la boîte où j'étais, et le freelance c'est pas forcément facile, et là c'est autre chose, mais c'est que moi il faut que je retrouve une stabilité, donc c'est pour ça que je disais que je
mais c'est vrai que tout pourrait changer pour Spirit. Là on est vraiment en train de mettre en place les idées au cœur du jeu et son gameplay, et puis probablement on va l'amener dans différents festivals dans quelques mois. Et c'est vrai que tout pourrait changer pour le projet si tout à coup on a un crowdfunding, un projet de crowdfunding qui a du succès, qui a suffisamment de succès pour le coup pour permettre à nous d'augmenter notre équipe, ou peut-être de proposer à des programmeurs de travailler à 100% sur le jeu pendant un certain nombre de mois. Et là, bah, c'est évident, tout à coup, l'accélération a lieu. Et donc, c'est de l'expérimental à beaucoup de niveaux. Hein. C'est de l'expérimental aussi pour moi au niveau de la communication. Voilà, c'est des choses aussi simples que de savoir à quel moment faut lancer un tweet, à quel moment faut balancer ses shares Facebook.
On connaît ça, n'est-ce pas?
C'est des choses qui sont pas forcément toujours très rigolotes, mais c'est des choses aussi que la communauté, pour le coup, suisse romande, mais suisse aussi en général, apprend petit à petit, voilà, sur comment mettre en avant aussi son jeu dans cette espèce d'océan, cette galaxie de différents jeux, enfin, où on peut très vite se perdre. Hein. Et donc, c'est pour ça que, en tout cas, moi, je crois dur comme fer à toutes ces idées de soutien, ces idées de voilà.
Soutenez-nous.
D'autant qu'en Suisse, avec le projet que vous avez, vous faites quand même partie des gros, entre guillemets.
Ah ouais.
C'est ça, je veux dire.
Quand on voit l'ambition
de la chose, quand on voit les premiers visuels, les premières choses, enfin, tout de suite, ça pose quelque chose où, vous faites partie des. Parce que, en Suisse, c'est souvent des toutes petites équipes, des gens qui commencent aussi, beaucoup de gens qui essayent des choses, c'est leur premier jeu. Donc, là, il y a une espèce de maturité dans ce qui est proposé, qui est, on sent que derrière, c'est des gens qui ont déjà fait des choses avant, qu'il y a du métier. Donc, du coup, inévitablement, c'est vrai que si vous faites quelque chose, on se souvient, Sunnyside avait fait un financement participatif suisse,
sur WeMakeIt,
qui est le site suisse, et qui avait assez bien réussi leur financement participatif. Et je pense que typique votre projet, c'est vrai que ça, c'est une des chances que la Suisse soit aussi en retard.
Ouais.
C'est qu'avec un projet comme le vôtre, il y a tout de suite un côté boom.
Ouais,
on arrive, on vous propose pas un truc où c'est notre premier jeu où on n'a jamais rien fait avant. Et ça, c'est, je pense qu'effectivement, ça, c'est intéressant. Donc,
c'est gentil.
Cool, voilà.
On a hâte d'avoir que vous posiez ça et puis qu'on puisse faire un peu de la pub pour ce crowdfunding.
Alors,
et dernière question avant qu'on clôture. Traditionnellement, je vais pas redemander à David parce que la dernière fois il a mis 30 minutes.
Vous pouvez mettre le podcast Chagata Games.
Exactement.
Écoutez les 20 dernières minutes.
Exactement. Entre Mathieu et David, c'était long, mais c'était très intéressant, passionnant. Mais on va pas le refaire une deuxième fois. Rinaldo, quel a été ton premier jeu marquant et ton dernier jeu marquant?
Ok, alors il faut savoir une chose, je vais pas faire 30 minutes, mais il faut savoir que j'ai eu ma première télé à 13 ans et mon premier ordi à 15.
D'accord.
Du coup, j'ai vu un peu du jeu vidéo, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de profiter.
Ok.
Par contre, mon premier jeu vraiment marquant, et encore maintenant, c'est quelque chose qui... Je l'ai joué trop de fois pour que ça me marque maintenant encore, mais c'est Final Fantasy VII, comme beaucoup de gens, je pense.
Ouais.
Parce que
la butraire qui en peut plus bonheur.
Parce que je me suis posé la question beaucoup pourquoi, parce qu'après ça il y a eu pas mal de jeux du style, on peut dire. Il y a eu le 9 qui m'a encore pas mal intéressé, mais après j'ai complètement perdu en fait le.
Comme beaucoup.
J'avais envie et pourtant je retombais toujours dans le même truc. C'était que c'était assez, par exemple les personnages étaient assez mal faits pour que je puisse m'imaginer. leurs émotions en fait, c'est assez ça qui était marrant, et du coup toute l'histoire, j'étais vraiment pris dans l'histoire, et ça pour moi c'est un point ultime, c'est qu'il y a plein de jeux que je commence maintenant encore, le gameplay par exemple est super intéressant, l'univers est super, mais tout d'un coup je sens la limite du moteur, je sais pas comment, mais à force tu dis ok, je peux aller jusque là. Là, ça va se passer. À partir de là, ça va se passer tout le temps la même chose. Si l'histoire me croche pas, c'est fini.
Ouais,
et je trouvais que Final Fantasy VII avait, j'étais encore jeune quand je l'ai fait, mais il avait des rebondissements, il avait des choses rigolotes, il avait des choses tristes. Tout le monde se rappelle forcément de la mort d'Iris.
Spoil. Non, je
pardon. Pareil que t'as plus le droit de dire. Maintenant qu'il y a le remake qui va sortir, ouais.
Ah, mais non, mais
dans le remake, elle va pas mourir, donc.
Dans le remake,
il y aura un DLC.
Dans le remake, il y aura enfin la possibilité de jouer et de pas la faire et de la sauver, tu vois.
Et de la sauver, bah.
Avec genre une plume de phénix.
Moi, je pense que je pense que le mec va être une va casser beaucoup de cœurs, mais.
Mais oui, bien sûr. Mais... Bon, mais sans parler du remake, ouais. J'ai très peur en fait.
Oui, oui,
j'ai envie, mais j'ai très peur en même temps.
Je pense que tu peux.
Bon, alors ça, c'était un des jeux marquants vraiment pour moi, un des premiers. Et... Mm-hmm. Peut-être au niveau de la couleur aussi, j'aimais bien.
Ok.
Enfin, ce côté, ce côté, ouais, finalement, je pourrais pas dire qu'il y a la même couleur dans Spirit, mais ce côté, ce vert tout le temps qui venait tout le temps.
Oui, oui,
super
oui,
lumineux,
que
maintenant que je réfléchis, oui. Chez nous, il y a un bleu.
Méga
comme
spoil,
ça,
le bleu dans Spirit, c'est l'énergie Mako.
Mais non!
En fait, l'héroïne, c'est.
Iris.
C'est Iris. C'est, elle voilà. Est passée du côté des morts et maintenant c'est la suite de l'histoire.
Voilà, exactement. Donc on a besoin d'un crowdfunding pour le procès.
Exactement.
Ah, merde. Chut. Ok, on efface tout ce qu'on a dit. Et donc le dernier jeu qui m'a marqué, malheureusement ça fait un moment,
ouais.
C'est Journey.
Journey, ah oui,
parce
bon, bah, ça fait sens. Hein,
ouais. Parce qu'après ça, en fait, il y a plein de jeux que j'ai plus ou moins aimés.
Mm-hmm.
Moi, il y avait par exemple StarCraft 2, je suis un grand fan de StarCraft 2.
Ah,
je
okay.
Me réjouis de l'acheter demain d'ailleurs.
Tiens, merde, oui, demain qui sort. Ouais, voilà.
Mais de nouveau, c'est la campagne, c'est l'histoire qui m'intéresse.
Ouais.
Et puis le fait d'avoir un petit truc en plus à chaque fois, et puis t'évolues, c'est intéressant parce que tu suis l'histoire, t'as envie mm-hmm. de savoir qu'est-ce qui se passe, il y a assez peu de personnages principaux, etc. Donc je dirais, c'est deux choses vraiment différentes, Journey et StarCraft 2. Mais Journey, c'était vraiment pour moi. Parce que j'ai pas eu l'occasion, j'avais pas. En fait, ma première console c'était une Xbox 360.
Mmh.
Et j'ai plus rien eu entre deux. Et puis mon boss l'année passée m'a dit faut que tu joues plus. Et du coup j'ai acheté la PS4. C'est la première fois de ma vie qu'on me disait mais faut que tu joues plus. J'étais ultra heureux. Et du coup, Journey, je l'ai eu dernièrement sur la PS4.
Ouais.
Et en fait, ce qui m'a. Là où ça m'a marqué, c'est une sorte d'espoir. Que le jeu vidéo s'arrête pas à des trucs de guerre, s'arrête pas à des RPG,
ouais.
Mais peut être une expression d'un artiste en quelque sorte.
Ouais.
Tu vois mm-hmm. Peut être un panneau vivant, mm-hmm. Je sais pas comment, un tableau vivant,
un
quelque chose
ouais.
Comme ça, va
okay.
Être un panneau. et du coup, forcément, vu que j'avais cette idée aussi de Spirit et tout ça, qui est quand même qu'il faut que ça soit une bonne balance entre ce tableau et puis le côté fun du, mm-hmm. du jeu, et le côté d'avoir envie de suivre l'histoire, etc. Je crois que c'est les trois que je peux dire. Je devais en dire deux. Je suis désolé, mais.
Ouais, c'est pas grave. Tu peux tricher. Hein. Il y en a d'autres qui trichent.
Avant moi, comme par exemple.
Comme par exemple.
Je ne citerai pas le nom
Bibi. Voilà, exactement.
Attention, parce que je vais me mettre à parler de des jeux que je suis en train de.
Ah non. Mais
ouais. Ouais, voilà quoi.
Ok.
Donc, du coup.
Donc Journey principalement. Et,
dernièrement, ouais. Et puis Final Fantasy VII.
Ok. Et t'as fait Bastion et Transistor.
Ouais, alors
ou
j'ai fait. Ouais, ouais.
Oui, oui. Ok.
Mais de nouveau, tu vois, là, c'était des jeux qui me plaisaient. Beaucoup visuellement au niveau mm-hmm. Il y avait plein de choses qui me plaisaient et en fait tout d'un coup j'ai vu ce que c'était
mm-hmm.
J'ai avancé puis j'étais là mais en fait je sais pas ça me
okay.
j'ai assez
tu
vite
me brises
passé,
un peu
fait.
Le cœur mais d'accord
je suis désolé non mais j'ai pas je les ai pas finis quoi
non,
si
non,
tu
mais
veux.
Bien sûr,
j'ai
ouais.
Pas réussi à aller jusqu'au bout
ouais, okay.
Et il y a beaucoup de jeux comme ça par exemple un que j'ai réussi à terminer je sais pas si c'était dans mon mood ou quoi mais
oui.
C'est The Great War de Ubisoft
comment Soldat Inconnu c'est ça
Soldat Inconnu voilà
Soldat Inconnu
j'ai
pas fait.
Ouais. Et là, alors, il y a plein de choses à dire, mais étonnamment, j'ai terminé jusqu'au bout. C'était mmh. Quelque chose où le moteur est finalement assez simple. Il y a deux systèmes ou trois systèmes de gameplay assez mmh. Simples que tu comprends très vite.
Mmh.
Et étonnamment, j'ai été jusqu'au bout et c'était rare en fait. Donc, les jeux où j'arrive
okay.
À aller jusqu'au bout, je suis vraiment content. Il y a aussi des jeux qui sont beaucoup trop longs pour moi. Vu que j'ai envie d'arriver à une fin d'histoire, c'est peut-être
ouais.
Très simple, mais j'aime bien un début, milieu, une fin, tu vois,
ouais.
Comme de regarder un film et mm-hmm. D'être impliqué dedans. Ah mm-hmm. Oui, un autre qui m'a. Pardon, hein, je vais parler en fait comme David. Un qui m'a
ah
beaucoup parlé.
Ah ah
un qui m'a beaucoup marqué.
On a
c'est
pas
Mass,
mal
Effect,
de
Mass Effect 2 et 3.
Ouais.
Que j'ai refait trois fois les deux.
Ah ouais, d'accord, ok.
Pour voir jusqu'où je pouvais aller dans l'histoire et tout ce que je pouvais faire en fait.
Mm-hmm.
Si tu le fais une fois un peu d'une traite,
oui.
Et du coup tu te rends compte que si t'avais fait
ouais.
Ci et ça, il y a des choses qui se passent, etc. Donc,
en fait, tu peux juste avoir une fin d'une couleur différente.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais, bah là, en l'occurrence.
Mais en fait, tu peux rien faire.
En l'occurrence, là, j'ai été frustré, ça c'est clair.
Ouais, t'as pas été le seul, mon dieu.
Et puis.
Tu viens de spoiler là en fait. Puis, oh, une nouvelle.
Moi, je tiens à dire, Rinaldo est aussi très fort pour un jeu. Il y a un jeu qu'il a fini puis qu'il a fini. J'ai fait récemment un article sur Brofu Keho Hatsune, qui est un jeu du riz noir.
Et t'es un talent.
750 millilitres.
À l'heure actuelle, je suis très vexé parce que Rinaldo détient le record ultime de ce jeu avec 750 millilitres au compteur.
T'es une sorte de pro player en fait.
Voilà.
Je crois que j'ai juste une grosse vessie.
Donc voilà, c'est mon objectif à l'heure actuelle.
Alors c'est le dernier jeu qui m'a marqué effectivement. Il m'a marqué au plus profond de mon âme.
Pour comprendre, on vous conseille d'aller sur un Quadpixel lire l'article de David qui est particulièrement chouette d'ailleurs.
Merci.
Vous comprendrez un peu mieux le délire. Bon, parce que quand même, on va pas laisser. Je pense, David, tu peux nous donner un jeu là actuellement. Vas-y.
On est bientôt à 3 heures de podcast.
Mais oui, et puis après, au pire, on te coupera. Tu fais trop long. Parler. Donc, fais concis.
Donc, c'est quoi la question?
C'est quel est ton dernier jeu là maintenant, ces temps là, le truc qui te parle?
Alors. Bon, le problème c'est qu'il faut qu'on fasse un podcast entier sur ce jeu.
Ça vient, c'est celui que je pense, ça va se faire, ne t'inquiète pas. On va faire parce qu'on en a pas parlé, mais on en a pas parlé parce que c'est trop grand.
Voilà.
Et du coup, on en parlera dans un long podcast.
Et donc ça juste au passage, mais je pense que j'en parlerai dans le podcast, c'est probablement un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo. En tout cas, il est facilement rentré dans mon top 3. Qui est très difficile à tenir, donc je pense à très vite un top 10. Mais le tout dernier jeu que je viens de faire, alors pour le coup, puis je peux le conseiller, je l'ai fait sur Wii U, c'est The Lone Survivor de Jasper Byrne, qui est pas spécialement un coup de cœur, mais qui m'a beaucoup intéressé. J'ai fait en parallèle Little Inferno aussi sur Wii U,
qui est aussi
très intéressant. Puis donc le Jasper Byrne, je trouve très intéressant, mais plus qu'au niveau de son utilisation générale ou de sa référence, disons, à Silent Hill 2, de tout l'univers justement un peu horrifique. C'est vraiment dans les détails, comme il a joué avec beaucoup de choses très intéressantes.
C'est très lynchien. J'adore.
Et une des idées, je dois dire, qui m'a le plus plu dans le jeu, c'est le fait que si t'es dans le noir et donc t'as pas allumé ta lampe torche, tu peux pas regarder ta carte.
Ah ouais,
c'est une rupture qui est très logique, mais qui est une rupture, par exemple, qui n'existe pas du tout dans un Silent Hill, où tu peux vraiment rompre pour le coup le jeu en ouvrant ton menu et en regardant ta map, même si tu te fais attaquer par un ennemi.
Du coup, ça fait pause dans Silent Hill, comme ça. Et voilà. Pas du tout, quoi.
Et dans ce Lone Survivor, il y avait vraiment cette continuité qui m'a beaucoup rappelé Zombie U sur Wii U. T'es vraiment tout le temps en fait dans le truc quand tu vas regarder dans ton backpack pour aller récupérer tes affaires. Enfin voilà. Et j'ai trouvé très fort dans un jeu en 2D. De réussir à rappeler quelque chose qui pour moi m'évoquait justement plus des gameplay 3D en fait, dans cette vitesse de jeu, ce besoin d'être tout le temps in-game. Donc voilà. Et puis le deuxième truc que j'ai trouvé très bien aussi dans ce jeu, c'est comme il a vraiment construit son level design pour vraiment créer une désorientation, c'est-à-dire quand tu prends une porte, tu sais jamais très bien s'il va falloir aller à gauche ou à droite, puis t'essayes de trouver une logique dans la carte, mais elle est jamais vraiment parfaite et autres. Et je trouve que voilà, il a été assez c'est créatif à ce niveau-là, quoi.
Ok. Voilà. Bon, ben merci beaucoup de tout ce que vous nous avez dit. C'était vraiment passionnant. Et puis, ben du coup, à tout bientôt pour un autre podcast. Ah oui, on vous rappelle que il y a la Level Design Game Jam le 6 décembre, dimanche 6 décembre. Donc, si vous voulez venir faire des niveaux de Mario Maker, alors on n'accepte pas les gens qui veulent dessiner des bits avec des points d'interrogation. Hein, on n'est pas là pour ça. Le but, c'est vraiment de faire des niveaux les plus chouettes possibles. Pour se poser des problématiques de level design et améliorer son level design, il y aura ce qu'il faut pour, avec des gens pour vous faire des feedbacks toute la journée, pour tester vos niveaux, et puis à la fin il y aura un petit, vous pourrez juger des niveaux des autres, décerner un prix des participants. Il y aura aussi nous, un coin de pixel et Pépite Nuggets qui font des vidéos YouTube qui seront avec nous et une personne de Nintendo pour pouvoir donner aussi un prix au meilleur niveau réalisé ce jour-là. Donc voilà, puis il y aura
du gâteau au chocolat.
Il y aura du gâteau au chocolat, surtout, c'est important. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit sur leveldesigngamejam.com. Et voilà.
Et si vous êtes présent sur Twitter, nous sommes tous ici présents sur Twitter.
C'est juste.
C'est ça.
Que ce soit @Vutraire, que ce soit @RioFugère, pour Rinaldo, @Routilan.
pour moi.
Sandro, at Tafia Chagata pour moi. Et on a bien sûr un Twitter pour Spirit. Et maintenant, il y a aussi un Twitter
pour
UCDP pour un coin
voilà,
de pixel.
Exactement. En fait, il y avait toujours un at un coin de pixel, mais c'était moi qui n'en avais pas. Puis du coup, on confondait. Très justement dit. On comprend pas bien des fois si c'est toi ou si c'est. Du coup, je me suis créé un Twitter à moi où je dis mes conneries. Et puis sur un coin de pixel, on dit toujours des conneries, des conneries plus corporate.
Des conneries officielles.
Des conneries officielles.
Ça commence quand même. Ça commence à quand même pas mal bouger aussi sur Facebook. Donc n'hésitez pas pour le coup à aller liker aussi un coin de pixel.
Et puis moi, je vais répéter juste le site de Spirit. Oui. C'est spirit-thegame.com. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est que je prends un risque là parce que je sais pas combien de personnes écoutent, mais j'habite à Kyoto et s'il y a des gens qui veulent, quand ils passent sur Kyoto, se boire un verre ou bien parler de jeux vidéo, je suis toujours ouvert, pas tous les jours et pas pour tout le monde, mais contactez-moi.
Ok, chouette. Bon, bah alors le message est passé. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis à tout bientôt. Bye bye.
Merci beaucoup. Bye bye.
Un coin de pixel.